Le premier exposé porte sur la rétribution des créateurs de ressources numériques. Alors, je dois dire que c'est un sujet qui nous a été vivement recommandé par beaucoup d'entre vous. C'est vraiment, comme on dit, une remontée du terrain. J'aime beaucoup cette expression élégante. Les remontées du terrain. Parce que c'est un souci pour les producteurs, diffuseurs. C'est un souci juridique. C'est accessoirement, j'ai tendance à suggérer principalement, un souci économique. Comme souvent, le droit marche derrière l'économie. Hein. Et les rétribuer, il faut des ressources pour les rétribuer, c'est vrai. Professeur Dozeguer, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je vais vous parler donc de rétribution des créateurs de ressources numériques. J'ai bien compris que c'est un sujet sensible. Donc, conformément au canevas qui a été présenté ce matin, ce sont des règles générales que je vais vous rappeler. Et puis ensuite, on ajustera les choses dans la table ronde et puis dans les questions au public. Alors, ce prix dans les contrats d'auteur, comme dans tous les contrats d'ailleurs, est la contrepartie de la prestation qui va être fournie. Et je dirais que c'est un prix qui a une importance particulière parce que l'auteur, finalement, c'est ce qui va lui permettre de vivre. Ce qui fait que, un peu comme un salarié, ça va présenter un caractère alimentaire. Et donc, parce que ça a un caractère alimentaire, on va conférer donc à notre auteur un certain nombre de garanties que j'évoque pour mieux les écarter, parce que je ne vais pas parler de ces questions, à savoir tout d'abord un privilège. L'auteur va disposer d'un privilège, une sorte de garantie de paiement qui se trouve consacré à l'article L131.8 du Code de la propriété intellectuelle, donc qui va garantir le paiement des redevances qui sont dues pour les trois dernières années. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir aussi, parce qu'il y a un caractère alimentaire, que ces redevances d'auteur, parce qu'elles sont la source principale, finalement, du revenu pour les créateurs, eh bien, on a une disposition qui s'inspire là aussi du Code du travail et qui pose une règle d'insaisissabilité, une portion, si vous voulez, qui va être insaisissable. Voilà. Donc, j'écarte finalement cette question de la garantie du paiement. On va surtout parler de la détermination, mais sachez qu'il y a quand même un certain nombre de garanties au profit de cet auteur. Alors, je suis parti donc, effectivement, rapidement sur cette question de la rétribution des créateurs. Et puis, rapidement, je me suis dit qu'il fallait quand même que je pose une question préalable. Finalement, je vais vous parler de prix, mais est-ce que le prix est nécessaire? Avant même d'envisager la question du prix, est-ce que cette rétribution est nécessaire? Est-ce qu'on pourrait concevoir l'auteur, qu'un auteur renonce dans un contrat à une rémunération totale ou partielle? Ou alors, est-ce qu'il faut tenir cette rémunération pour d'ordre public, en quelque sorte? C'est la première question. Alors, si on regarde le Code de la propriété intellectuelle, on a deux dispositions qui figurent dans les documents qui vous ont été remis. On a tout d'abord l'article L122.7, qui dispose que, je cite, « Le droit de représentation et de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ». Et puis on a une autre disposition qui a été rajoutée avec la loi du 1er août 2006, qui assez mystérieusement souligne que l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels co-auteurs et ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. Donc si on lit ces deux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'obstacle, finalement, à la gratuité. Et puis, quand on réfléchit bien, on pourrait dire, oui, mais est-ce que ces deux dispositions ne pourraient pas être plutôt limitées, finalement, aux libéralités ou à la donation? Est-ce que cette gratuité ne pourrait pas être, finalement, dangereuse? Est-ce que, finalement, notre auteur n'a pas besoin d'être protégé contre lui-même pour céder, finalement, à des cessions, entre guillemets, gratuites? Et puis aussi parce que les contrats d'édition, qui sont souvent les contrats sur lesquels on va, la base desquels on va raisonner, sont des contrats à titre onéreux. Alors, je suis assez partagé pour vous dire finalement est-ce que ça faut être gratuit ou est-ce que c'est onéreux. Moi, j'ai tendance à m'appuyer sur ces dispositions qui sont claires. Hein. Effectivement, on peut céder à titre gratuit. J'aurais tendance à rappeler aussi que l'économie de certains contrats est en faveur de cette solution. On a pas mal de jurisprudence avec un éditeur qui est l'éditeur Larmatant, qui fait signer à ses contrats un contrat dans lequel il y a une clause comme quoi finalement les 1000 premiers exemplaires qui seront vendus seront effectivement sans droit d'auteur, en quelque sorte gratuitement cédés à l'éditeur. Et pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien que, je dirais, dans certains secteurs sont scientifiques, que c'est pas très rentable, certains ouvrages, et donc on comprend bien finalement que l'éditeur souhaite se protéger. Alors, cette jurisprudence est intéressante parce que finalement elle a nourri, je dirais, certaines solutions, et la Cour de cassation et des juges du fond semblent dire aujourd'hui que certes la gratuité est possible, pour autant que la renonciation à la rémunération est claire et librement consentie. Donc en fait on bascule sur autre chose, c'est la question de savoir véritablement dans quelles conditions finalement est organisée cette session à titre gratuit. Bon, ça c'est la première question, mais je vais quand même, et on pourra revenir évidemment sur la discussion, partir sur ce qui me semble être la norme, et la norme c'est effectivement qu'il y a un prix, et donc une rétribution, c'est là-dessus que je vais partir. Alors, comment vous présenter les choses? Eh bien, comme ça a été annoncé rapidement dans le plan qui vous a été remis, je vais tout d'abord vous présenter la question de la détermination du prix. Et puis, ce sera l'essentiel de mon intervention, rappeler à la fin que ce prix peut parfois être révisé lorsque il y a effectivement des circonstances qui font que il a été peut-être trop bas ou trop haut. Voilà, si vous voulez, les deux questions que je vous propose. Alors, commençons par la détermination du prix. Ce prix, pour qu'il soit, je dirais, déterminé, il faut considérer le droit d'auteur, qu'on examine aujourd'hui et demain, mais aussi ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, si vous voulez, le droit civil, qui aussi a vocation à régir ces questions. Et on dit très souvent que ce droit commun, à propos du prix, doit être donc un prix déterminé et un prix déterminable. Alors, prix déterminé, si c'est assez facile à comprendre, il n'y a pas une rémunération à débattre. Vous ne pouvez pas effectivement envisager dans l'avenir une rémunération plus tard. Prix déterminable. Prix déterminable. Là, on a une affaire. Enfin, c'est pas une affaire. C'est quelque chose qui, moi, me paraît intéressant, qui a été présenté à la fin 2007 à propos donc d'une distribution, on va dire originale, d'un groupe de musique qui s'appelle Radiohead, qui en octobre 2007 a proposé son album en téléchargement libre. C'est-à-dire que finalement, l'album était mis à disposition des internautes, et c'était les internautes qui fixaient le prix finalement de l'album. Alors, tout le monde s'est émerveillé de cette opération, qui était quand même une opération quand même marketing, parce que il faut bien voir que ensuite, deux mois après, Radiohead vendait un coffret qui, lui, effectivement, était loin d'être gratuit, mais il n'empêche qu'on s'est interrogé sur ce mode de fixation du prix, et les études qui ont été faites ont montré qu'il y a eu un téléchargement de, je crois, plus +1,2 million internautes, pour une moyenne d'un prix de 5,80 €. Donc finalement, ils ont payé en moyenne 6 € pratiquement pour acheter cet album. Alors, bon, preuve d'abord que le piratage n'est peut-être pas inéluctable sur Internet, c'est effectivement que les vieux schémas sont pas forcément intangibles. Et puis, surtout, c'est la question qui nous intéresse, est-ce qu'on peut parler finalement ici de détermination du prix si le prix est à libre disposition du débiteur? Est-ce que finalement, c'est une formule qui répond bien au canon du droit civil? Voilà. Donc, première chose à rappeler, c'est le droit commun. Le prix doit être déterminé et déterminable. Je laisse tomber le droit commun et j'en reviens au droit d'auteur. Alors, sur le droit d'auteur, la question se résume en une alternative, qui est la question de savoir si la rémunération doit être proportionnelle ou si elle doit être forfaitaire. Dans notre droit d'auteur, le principe est celui de la rémunération proportionnelle. C'est ici donc une disposition qui figure là aussi dans vos documents, l'article L131.4, qui est une disposition générale qu'on retrouve également pour d'autres contrats, le contrat d'édition et le contrat de production audiovisuelle. On considère que donc le principe est la rémunération proportionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on veut associer au plus près l'auteur à l'exploitation de son œuvre, c'est la première raison. Et puis, deuxième raison, qui est, à mon avis, tout à fait critiquable, c'est qu'on veut éviter que l'auteur abandonne, finalement, une fois pour toutes, son œuvre contre une somme dérisoire. Bon, pourquoi c'est critiquable? Parce qu'on peut très bien avoir une rémunération proportionnelle avec un pourcentage très faible, et finalement, le risque est le même. Mais il n'empêche que ce sont ces deux idées qui justifient la rémunération proportionnelle. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette rémunération proportionnelle joue de manière générale. C'est-à-dire qu'elle joue pour toute sorte d'œuvres, sauf pour nous dit le juge. C'est un arrêt d'ailleurs qu'avait commenté André Lucas, une décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2006, sauf pour les œuvres collectives. Donc on revient à la discussion de ce matin. Si on arrive effectivement à faire jouer la notion d'œuvre collective, on n'a pas à se tourner vers la rémunération proportionnelle. On est dans le forfait, et vous comprenez pourquoi. Eh bien, parce que le droit naît, encore une fois, sur la tête de la personne morale, donc ab initio, en quelque sorte, il n'y a pas de cession. S'il n'y a pas de cession, il n'y a pas à prévoir, finalement, de rémunération proportionnelle. Ça joue également dans le contrat de travail. Encore que là, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la discussion tout à l'heure, dans le contrat de travail, parce que on semble dire que dans le contrat de travail, on est plutôt dans la rémunération proportionnelle. Moi, j'ai le sentiment que dans le contrat de travail, on serait plutôt dans la rémunération forfaitaire, plutôt dans des exceptions. On pourra envisager ces discussions tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, si vous stipulez un forfait, alors même qu'on est dans la rémunération proportionnelle, la question est de savoir, c'est d'abord si vous pouvez le faire, et est-ce qu'on ne sera pas effectivement dans une disposition contraire à l'ordre public. Eh bien, on pourrait dire a priori oui, si vous voulez faire un forfait qu'il est plus avantageux, pourquoi pas, si ce n'est pas déséquilibré. Eh bien, le juge tient ce texte pour impératif, d'ailleurs le texte dit bien la cession doit comporter, de telle sorte que ben, vous pouvez prévoir un forfait en plus de la rémunération proportionnelle, mais vous ne pouvez pas substituer un forfait à la rémunération proportionnelle. Ici, le juge est assez, assez radical. Toujours à propos de ce prix proportionnel, la question est de savoir comment est-ce qu'on va le déterminer, ce prix proportionnel. Ça, c'est la disposition, toujours l'article L131.4, qui nous dit que la cession doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Alors, de quoi s'agit-il ? Selon la Cour de cassation, il s'agit du prix payé par le public pour accéder à l'œuvre. Ce prix ne comprenant pas les taxes, et notamment pas la TVA. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il n'y a aucune raison, finalement, pour que l'auteur supporte les frais d'exploitation des œuvres. Donc, ça veut dire que si vous calculez ce prix sur des redevances, sur les recettes éditeurs ou sur le chiffre d'affaires, effectivement, de l'entreprise, entre guillemets, ce n'est pas possible, selon, encore une fois, le juge. Bon, il y a beaucoup de jurisprudence lorsqu'on essaie de faire payer, en fait, quelque sorte, l'auteur, déduire des rémunérations au titre des frais de prospection d'agents littéraires. Là, effectivement, ça ne va pas. Alors, ce qui est important à souligner, surtout ici, c'est que pour que cette règle joue, eh bien, il faut une vente de support matériel, comme c'est le cas, par exemple, de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle ou l'exploitation sous forme de vidéogramme, d'un produit multimédia. Bon, là, il n'y aura pas de difficulté. Mais lorsqu'on se retrouve en présence d'une exploitation de l'œuvre sur Internet, à ce moment-là, il n'y aura pas à proprement parler de vente de support. Et ce qui veut dire en quelque sorte qu'on va être obligé de prendre en compte d'autres éléments pour déterminer cette rémunération. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on a effectivement certains modèles, mais à mon avis, on est plus ici dans le forfait que dans la rémunération proportionnelle. Alors, je laisse cette question pour l'instant de côté, j'y reviens dans un instant. Toujours dans cette rémunération proportionnelle, la question est la question du taux de la rémunération. Quel taux doit-on fixer pour déterminer ce prix? Ici, c'est assez simple, ce prix est laissé à l'appréciation des parties, ça peut être un prix fixe ou progressif, il peut comporter ou non des avances, on peut prendre ou non en compte les usages professionnels. Ici, il n'y a pas véritablement de difficulté. Enfin, dernière précision sur ce prix proportionnel, la question de la sanction. Que se passe-t-il effectivement lorsqu'on s'éloigne finalement de ces règles que je viens de vous présenter rapidement, de l'assiette, prévoir un forfait à la place d'une rémunération proportionnelle? Eh bien, ici, on doit se tourner vers une nullité. Nullité, effectivement, de la clause et du contrat, éventuellement. Plus précisément, une nullité relative. On considère que c'est dans le seul intérêt patrimonial des auteurs. Donc, on est dans une nullité de protection, finalement, avec tout ce qui en découle au niveau du régime de la nullité relative. Donc, je vous le rappelle, pas de possibilité, une possibilité, pardon, de confirmation, renoncer à des conditions claires à la nullité. Pas de possibilité d'intenter une action si on n'est pas parti au contrat, et puis une prescription qui est une prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Voilà donc pour cette première règle, qui est la règle donc de la rémunération proportionnelle et qui, vous l'avez compris, est le principe dans notre droit d'auteur. Ce principe supporte des exceptions parce que, finalement, cette rémunération proportionnelle, elle a quelque chose d'un peu contraignant. C'est pourquoi l'article L131.4 alinéa second énonce un certain nombre d'exceptions, soulignant toutefois la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants. Donc on va se tourner exceptionnellement vers le forfait. Alors, il y a plusieurs cas. Plusieurs cas qu'on peut regrouper finalement par famille. Tout d'abord, c'est, je dirais, l'hypothèse où il y a impossibilité de mettre en œuvre la rémunération proportionnelle. On ne peut pas mettre en œuvre la rémunération proportionnelle. Bon, ce qui peut effectivement tenir à plusieurs choses, c'est ici le premièrement qui nous le dit, la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être pratiquement donc déterminée. Alors, à quoi est-ce que cela correspond? Ça correspond à l'hypothèse d'une communication de l'œuvre au public sans paiement direct d'un prix. Alors, exemple, le cas donc d'un prix payé par le public qui inclut des prestations qui, finalement, rendent impossible l'identification de la part qui correspond à l'exploitation de l'œuvre. Exemple, vous accédez à une boîte de nuit, bon, c'est tout le contentieux, la SACEM, eh bien, ça comprend un prix d'accès à la salle, un prix d'accès aux boissons, et donc, effectivement, ici, on ne peut pas véritablement déterminer cette assiette. On retrouve également, et c'est là que ça devient, me semble-t-il, plus proche de vos préoccupations, lorsqu'on est en présence d'une exploitation en ligne. Lorsqu'on est en présence d'une exploitation en ligne, a priori, on pourrait dire, le principe de la rémunération proportionnelle trouve à s'appliquer ici comme ailleurs, sauf que l'exploitation en ligne, parfois, s'éloigne largement de ces schémas. Alors, quand, par exemple, un internaute va payer un opérateur qui est souvent un opérateur de télécommunication, une somme forfaitaire en contrepartie de l'accès à un catalogue que le dit opérateur va mettre à disposition des internautes, souvent dans une offre globale. C'est effectivement Free qui va vous donner accès à un catalogue et puis qui va effectivement vous proposer tout un tas de services. Il est bien évident ici que l'œuvre n'est qu'une composante, finalement, du site, même si elle peut avoir un rôle d'attraction particulier. On va effectivement se tourner vers tel opérateur parce que tel opérateur a effectivement un contrat avec le producteur de Madonna, par exemple. Eh bien, ce n'est pas l'objet d'une exploitation propre. De surplus, ici, on a des recettes qui sont des recettes indirectes pour l'exploitation du site. On pense notamment aux recettes publicitaires qui vont assurer finalement la rémunération. De telle sorte, si vous voulez, qu'il est difficile de rentrer dans le cadre du texte que je vous ai décrit, article L131.4, selon laquelle la rémunération proportionnelle doit être assise sur les seules recettes issues directement de l'exploitation de l'œuvre. Ici, ce n'est pas véritablement le cas. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, c'est intéressant parce que les rédacteurs de ce type de contrat, en général, se sont, appuyés sur une jurisprudence qui avait strictement rien à voir, qui a été adoptée en 1985, c'était encore une jurisprudence à propos de la SACEM. Dans un arrêt de 1985, la Cour de cassation avait souligné que les conditions de type forfaitaire peuvent consister en une redevance calculée sur le montant, y compris la TVA, de prestations étrangères à la diffusion des œuvres du répertoire considéré. Et on a, des accords qui vont même plus loin. J'ai notamment relevé un accord qui concernait des œuvres qu'on a évoquées ce matin, des œuvres journalistiques, un accord qui date de 2000, où l'assiette retenue n'est pas, constituée seulement des recettes, mais ce qu'on appelle le potentiel commercial. Potentiel commercial du site, qui en inclut donc d'une part les tarifs publicitaires et d'autre part le nombre de pages qui ont été vues et qui comporte pour objet, effectivement, l'œuvre, objet de l'accord. Voilà. Donc, première, exception pour l'exploitation en ligne, il me semble que dans ce cadre-là, on est très éloigné du principe de la rémunération proportionnelle. Ensuite, le texte envisage d'autres exceptions, qui sont là, on va dire, plus ou moins imprégnées d'une certaine vision économique des choses. On nous dit que le forfait est ainsi possible lorsque les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut, lorsque les frais d'opération de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre. On peut ici prendre l'exemple des œuvres multimédia, pour lesquelles finalement les nombres d'emprunts ou aux œuvres préexistantes rendent finalement les frais de gestion d'une rémunération proportionnelle beaucoup trop lourds. C'est beaucoup trop onéreux finalement de contrôler finalement tout cela, de telle sorte qu'on va plutôt se tourner vers une rémunération forfaitaire. Ensuite, cette disposition, alinéa 2, donc quatrièmement, autorise le recours au forfait lorsque, je cite, « la nature ou les conditions d'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre. » Bon, je ne sais pas, moi, par exemple, une préface dans un ouvrage, une annotation, bon, effectivement, ce n'est pas l'élément essentiel, « soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité. » Bon, c'est effectivement, là aussi, d'autres exemples. Ça a été jugé pour des décors et une mise en scène d'un opéra où on a considéré effectivement que l'élément était tout à fait accessoire par rapport à l'œuvre dans son entier. Enfin, on a un renvoi au logiciel et dans le sixièmement, aux autres cas prévus au présent code, c'est-à-dire finalement, notamment, le contrat d'édition qui est envisagé à l'article L132.2.6. Donc, voyez dans tous ces cas, on s'éloigne finalement du principe de la rémunération proportionnelle pour se tourner vers la rémunération forfaitaire. J'ajouterai, pour finir sur cette question de la détermination du prix et pour rester dans les temps, que le législateur a prévu donc des dispositions pour que notre auteur soit en mesure de connaître, je dirais, le montant de ses droits, ce qu'on appelle la reddition des comptes. Bon, c'est les articles L132.13 et 14 pour le contrat d'édition. Et enfin, le paiement, à quel moment le paiement doit intervenir. Là, il n'y a pas de disposition du Code de la propriété intellectuelle. On s'accorde pour dire que le paiement doit s'intervenir au moment de la remise de l'ouvrage dans le cadre du forfait, avec une précision importante, c'est que les avances ou les avaloirs de l'éditeur sont traités par la pratique comme un dédit, ce qui veut dire en quelque sorte que si notre éditeur ne publie pas, eh bien, l'auteur va pouvoir effectivement conserver ses sommes. Soit ça intervient annuellement avec le versement proportionnel. Voilà, si rapidement présenté, donc ces deux axes, le principe de la rémunération proportionnelle et les exceptions de la rémunération forfaitaire. Alors, pour terminer, il faut aussi observer que ce prix que je viens de vous présenter ainsi rapidement n'est pas un prix intangible, c'est-à-dire que exceptionnellement, parfois, on va pouvoir le réviser, ce prix. Alors, de quelle manière eh bien, il y a tout d'abord la manière, encore une fois, du droit commun. Plutôt que d'aller solliciter les dispositions du droit d'auteur, on peut encore une fois se tourner vers le droit civil. Alors, dans le droit civil, on a quelques décisions sur ce qu'on appelle le prix dérisoire. De manière plus intéressante, on pourrait songer à solliciter un texte très en vogue aujourd'hui dans le droit des contrats, qui est l'article 1134, alinéa 3, qui est le principe en vertu duquel l'on doit exécuter les contrats de bonne foi. Alors, comment pourrait-on faire le lien avec la question de la révision du prix ? Eh bien, si on s'inspire de la jurisprudence rendue en matière de contrat de distribution, on considère finalement que l'opérateur qui refuse de renégocier une convention qui serait fortement déséquilibrée, eh bien, méconnaîtrait le principe des contrats d'exécution de contrats de bonne foi. Donc, ça n'a pas donné lieu à ma connaissance d'application dans le contrat d'auteur, mais il n'y a pas de raison de ne pas solliciter ce principe ici. Donc, première alternative, se tourner vers le droit commun. Sinon, il faut se tourner vers le droit d'auteur. Et dans le droit d'auteur, on a des dispositions tout à fait originales en ce qui concerne la révision du prix. Disposition donc qui figure à l'article L131.5, qui envisage, alors là, c'est aussi des discussions académiques, un ou deux cas, je dirais, de révision. Moi, il me semble qu'il y en a deux. Le premier, ce serait plutôt la lésion, et le deuxième, ça serait plutôt ce qu'on appelle l'imprévision. Alors, quelle est la différence ? La lésion, ça c'est intéressant parce que dans le Code de la propriété intellectuelle, c'est une disposition qui va s'inspirer d'une disposition du Code civil qui est rendue en général en matière d'immeuble. On peut dire que c'est surprenant finalement d'aller se servir finalement d'une disposition qui concerne les immeubles, l'exploitation d'une œuvre et la possession, la propriété d'un immeuble, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'empêche que dans le Code civil et dans le Code de la propriété intellectuelle, on considère que lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus des 7 douzièmes, à ce moment-là, il va pouvoir envisager une révision. Donc ça veut dire qu'on se situe au moment de la formation du contrat, C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est au moment de la formation du contrat. On va comparer ce prix avec un prix négocié par d'autres créateurs d'un secteur professionnel, et on va s'apercevoir que finalement, ben, ce pauvre auteur s'est fait avoir en quelque sorte. Et donc, on va envisager une révision de son contrat sur la base donc de cette disposition inspirée du Code civil. Et puis, on a une deuxième, je dirais, un deuxième cas de révision qui est encore plus surprenant, parce qu'en droit civil, en général, c'est un peu le diable, cette théorie, ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. En théorie de l'imprévision, ça veut dire que finalement, vous avez conclu un contrat, il n'était pas déséquilibré au moment de la formation, et puis surviennent un certain nombre d'événements au cours de l'exécution qui font que ce contrat devient déséquilibré. Est-ce qu'on peut revenir finalement, est-ce qu'on peut rééquilibrer ce contrat ? En droit civil, depuis un célèbre arrêt qu'on appelle l'arrêt Canal de Craponne, qu'on enseigne à nos étudiants, et on dit non, c'est pas possible, et voilà. Et puis depuis 200 ans, effectivement, on maintient cette jurisprudence. Bon, il y a eu effectivement quelques tentatives. Et bien, en droit d'auteur, c'est possible. On a effectivement, dans certaines mesures, l'admission de cette théorie de l'imprévision. Encore faut-il, et ça a donné lieu à une décision intéressante par laquelle je vais terminer, encore faut-il qu'il y ait un véritable forfait et qu'il y ait, au sens du texte, des produits de l'œuvre à comparer avec le forfait. Alors, c'est ici une décision qui a été rendue donc le 14 juin 2007 de la Cour de cassation. Il s'agissait en fait de deux compositeurs qui avaient réalisé une petite musique qui était destinée à sonoriser un réseau de téléphonie mobile. Et ils avaient reçu 30 000 euros dans le cadre donc du contrat de commande. Et en contrepartie de la cession des droits patrimoniaux, ils devaient en plus recevoir une rémunération forfaitaire de 5 500 euros par année d'exploitation. Et ces deux compositeurs ne considéraient que ce n'était pas suffisant, puisqu'ils vont réclamer à l'opérateur 900 000 euros par année d'exploitation. Donc effectivement, ils étaient très gourmands et donc s'appuyaient sur cette disposition que je viens de vous présenter, l'article L131.5, ce qui va être refusé par les juges du fond et par la Cour de cassation. Pourquoi ? Alors c'est intéressant de relever la formule de la Cour de cassation, qui nous dit que qu'on a constaté que l'œuvre musicale d'une durée de quelques secondes n'était utilisée que de façon accessoire par la société Bouygues Télécom comme identifiant sonore pour son réseau de téléphonie mobile, la Cour d'appel a exactement retenu qu'une telle utilisation n'engendrait aucun produit au profit de la société et en a déduit à bon droit que le forfait en contrepartie duquel l'œuvre avait été cédée n'était pas soumis à révision, à défaut donc de remplir les dispositions de ce texte. Autrement dit, si vous voulez, cette petite musique n'engendrait pas des produits pour l'opérateur de téléphonie mobile, le public ne payait pas pour y accéder, et donc on ne pouvait pas faire jouer cet article en L131.5, mais toujours est-il qu'il y a toujours la possibilité de faire jouer cette théorie de l'imprévision. Voilà, ainsi rapidement présenté. D'une part, la détermination du prix, vous avez compris, le principe, c'est la rémunération proportionnelle, l'exception, les rémunérations forfaitaires. Ce prix n'est pas intangible, il peut se prêter à révision. Merci de votre attention.
Merci, chers collègues. J'invite maintenant les participants à la table ronde à vous rejoindre, à la tribune, pour dialoguer avec vous. Michel Armat, qui est le directeur d'ONEJ de Paris Dauphine, Jean-Bernard Le Bourdon, qui nous a rejoint tout à l'heure, et qui est délégué au système d'information de Toulouse 1 et un des piliers de l'UNJF, le président Mezzu-Chambon, que vous connaissez, et notre collègue Carole Nocera-Piquant, qui est chargée de mission pour UVED. Le premier exposé porte sur la rétribution des créateurs de ressources numériques. Alors je dois dire que c'est un sujet qui nous a été vivement recommandé par beaucoup d'entre vous. C'est vraiment, comme on dit, une remontée du terrain. J'aime beaucoup cette expression élégante. Les remontées du terrain. Parce que c'est un souci pour les producteurs, diffuseurs. C'est un souci juridique. C'est accessoirement, j'ai tendance à suggérer principalement, un souci économique, comme souvent le droit marche derrière l'économie. Hein. Et là, les rétribuer, il faut des ressources pour les rétribuer, c'est vrai. Professeur Bezouillère, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je vais vous parler donc de rétribution des créateurs de ressources numériques. J'ai bien compris que c'était un sujet sensible. Donc, conformément au canevas qui a été présenté ce matin, ce sont des règles générales que je vais vous rappeler. Et puis ensuite, on ajustera les choses dans la table ronde et puis dans les questions au public. Alors, ce prix dans les contrats d'auteur, comme dans tous les contrats d'ailleurs, est la contrepartie de la prestation qui va être fournie. Et je dirais que c'est un prix qui a une importance particulière parce que l'auteur, finalement, c'est ce qui va lui permettre de vivre. Ce qui fait que, un peu comme un salarié, ça va présenter un caractère alimentaire. Et donc, parce que ça a un caractère alimentaire, on va conférer donc à notre auteur un certain nombre de garanties que j'évoque pour mieux les écarter, parce que je ne vais pas parler de ces questions, à savoir tout d'abord un privilège. L'auteur va disposer d'un privilège, une sorte de garantie de paiement qui se trouve consacré à l'article L131.8 du Code de la propriété intellectuelle, donc qui va garantir le paiement des redevances qui sont dues pour les trois dernières années. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir aussi, parce qu'il y a un caractère alimentaire, que ces redevances d'auteur, parce qu'elles sont la source principale, finalement, du revenu pour les créateurs, eh bien, on a une disposition qui s'inspire, là aussi, du Code du travail et qui pose une règle d'insaisissabilité, une portion, si vous voulez, qui va être insaisissable. Voilà. Donc, j'écarte, finalement, cette question de la garantie du paiement. On va surtout parler de la détermination, mais sachez qu'il y a quand même un certain nombre de garanties au profit de cet auteur. Alors, je suis parti donc effectivement rapidement sur cette question de la rétribution des créateurs et puis rapidement je me suis dit qu'il fallait quand même que je pose une question préalable. Finalement, je vais vous parler de prix, mais est-ce que le prix est nécessaire? Avant même d'envisager la question du prix, est-ce que cette rétribution est nécessaire? Est-ce qu'on pourrait concevoir l'auteur, qu'un auteur renonce dans un contrat à une rémunération totale ou partielle? Ou alors, est-ce qu'il faut tenir cette rémunération pour d'ordre public, en quelque sorte? C'est la première question. Alors, si on regarde le Code de la propriété intellectuelle, on a deux dispositions qui figurent dans les documents qui vous ont été remis. On a tout d'abord l'article L122.7, qui dispose que, je cite, « Le droit de représentation et de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ». Et puis on a une autre disposition qui a été rajoutée avec la loi du 1er août 2006, qui assez mystérieusement souligne que l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels co-auteurs et ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. Donc si on lit ces deux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'obstacle, finalement, à la gratuité. Et puis, quand on réfléchit bien, on pourrait dire, oui, mais est-ce que ces deux dispositions ne pourraient pas être plutôt limitées, finalement, aux libéralités ou à la donation? Est-ce que cette gratuité ne pourrait pas être, finalement, dangereuse? Est-ce que, finalement, notre auteur n'a pas besoin d'être protégé contre lui-même pour céder, finalement, à des cessions, entre guillemets, gratuites? Et puis aussi parce que les contrats d'édition, qui sont souvent les contrats sur lesquels la base desquels on va raisonner, sont des contrats à titre onéreux. Alors, je suis assez partagé pour dire finalement est-ce que c'est, faut être gratuit ou est-ce que c'est onéreux. Moi, j'ai tendance à m'appuyer sur ces dispositions qui sont claires. Hein. Effectivement, on peut céder à titre gratuit. J'aurais tendance à rappeler aussi que l'économie de certains contrats est en faveur de cette solution. On a pas mal de jurisprudence avec un éditeur qui est l'éditeur Larmatant, qui fait signer à ses contrats un contrat dans lequel il y a une clause comme quoi, finalement, les 1000 premiers exemplaires qui seront vendus seront effectivement sans droit d'auteur, en quelque sorte, gratuitement, cédés à l'éditeur. Et pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien que, je dirais, dans certains secteurs scientifiques, c'est pas très rentable, certains ouvrages, et donc on comprend bien, finalement, que l'éditeur souhaite se protéger. Alors, cette jurisprudence est intéressante parce que, finalement, elle a nourri, je dirais, certaines solutions. Et la Cour de cassation et les juges du fond semblent dire aujourd'hui que, certes, la gratuité est possible, pour autant que la renonciation à la rémunération est claire et librement consentie. Donc, en fait, on bascule sur autre chose. C'est la question de savoir véritablement dans quelles conditions, finalement, est organisée cette cession à titre gratuit. Bon, ça c'est la première question, mais je vais quand même, et on pourra revenir évidemment sur la discussion, partir sur ce qui me semble être la norme, et la norme c'est effectivement qu'il y a un prix, et donc une rétribution, c'est là-dessus que je vais partir. Alors, comment vous présenter les choses? Eh bien, comme ça a été annoncé rapidement dans le plan qui vous a été remis, je vais tout d'abord présenter la question de la détermination du prix, et puis, ce sera l'essentiel de mon intervention, rappeler à la fin que ce prix peut parfois être révisé lorsque il y a effectivement des circonstances qui font que il a été peut-être trop bas ou trop haut. Voilà, si vous voulez, les deux questions que je vous propose. Alors, commençons par la détermination du prix. Ce prix, pour qu'il soit, je dirais, déterminé, il faut considérer le droit d'auteur, qu'on examine aujourd'hui et demain, mais aussi ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, si vous voulez, le droit civil, qui aussi a vocation à régir ces questions. Et on dit très souvent que ce droit commun, à propos du prix, doit être donc un prix déterminé et un prix déterminable. Alors, prix déterminé, si c'est assez facile à comprendre, il n'y a pas une rémunération à débattre. Vous ne pouvez pas effectivement envisager dans l'avenir une rémunération plus tard. Prix déterminable. Là, on a une affaire. Enfin, c'est pas une affaire. C'est quelque chose qui moi me paraît intéressant, qui a été présenté à la fin 2007 à propos donc une distribution, on va dire originale, d'un groupe de musique qui s'appelle Radiohead, qui en octobre 2007 a proposé son album en téléchargement libre. C'est-à-dire que finalement, l'album était mis à disposition des internautes et c'était les internautes qui fixaient le prix finalement de l'album. Alors, tout le monde s'est émerveillé de cette opération, qui était quand même une opération quand même marketing, parce que il faut bien voir que ensuite, deux mois après, Radiohead vendait un coffret qui, lui, effectivement, était loin d'être gratuit. Mais il n'empêche qu'on s'est interrogé sur ce mode de fixation du prix. Et les études qui ont été faites ont montré qu'il y a eu un téléchargement de, je crois, plus +1,2 million internautes, pour une moyenne d'un prix de 5,80 euros. Donc finalement, ils ont payé en moyenne 6 euros pratiquement pour acheter cet album. Alors, bon, preuve d'abord que le piratage n'est peut-être pas inéluctable sur Internet, c'est effectivement que les vieux schémas sont pas forcément intangibles. Et puis, surtout, c'est la question qui nous intéresse, est-ce qu'on peut parler finalement ici de détermination du prix si le prix est à libre disposition du débiteur? Est-ce que finalement, c'est une formule qui répond bien au canon du droit civil? Voilà. Donc, première chose à rappeler, c'est le droit commun. Le prix doit être déterminé et déterminable. Je laisse tomber le droit commun et j'en reviens au droit d'auteur. Alors, sur le droit d'auteur, la question se résume en une alternative, qui est la question de savoir si la rémunération doit être proportionnelle ou si elle doit être forfaitaire. Dans notre droit d'auteur, le principe est celui de la rémunération proportionnelle. C'est ici donc une disposition qui figure là aussi dans vos documents, l'article L131.4, qui est une disposition générale qu'on retrouve également pour d'autres contrats, le contrat d'édition et le contrat de production du visuel. On considère que donc le principe est la rémunération proportionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on veut associer au plus près l'auteur à l'exploitation de son œuvre, c'est la première raison. Et puis, deuxième raison, qui est, à mon avis, tout à fait critiquable, c'est qu'on veut éviter que l'auteur abandonne, finalement, une fois pour toutes, son œuvre contre une somme dérisoire. Bon, pourquoi c'est critiquable? Parce qu'on peut très bien avoir une rémunération proportionnelle avec un pourcentage très faible, et le risque est le même. Mais il n'empêche que ce sont ces deux idées qui justifient la rémunération proportionnelle. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette rémunération proportionnelle joue de manière générale. C'est-à-dire qu'elle joue pour toute sorte d'œuvres, sauf, pour nous dit le juge, c'est un arrêt d'ailleurs qu'avait commenté André Lucas, une décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2006, sauf pour les œuvres collectives. Donc on revient à la discussion de ce matin. Si on arrive effectivement à faire jouer la notion d'œuvre collective, on n'a pas à se tourner vers la rémunération proportionnelle. On est dans le forfait, et vous comprenez pourquoi. Eh bien, parce que le droit naît, encore une fois, sur la tête de la personne morale, donc ab initio, en quelque sorte, il n'y a pas de cession. S'il n'y a pas de cession, il n'y a pas à prévoir, finalement, de rémunération proportionnelle. Ça joue également dans le contrat de travail. Encore que là, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la discussion tout à l'heure, dans le contrat de travail, parce que on semble dire que dans le contrat de travail, on est plutôt dans la rémunération proportionnelle. Moi, j'ai le sentiment que dans le contrat de travail, on serait plutôt dans la rémunération forfaitaire, plutôt dans des exceptions. On pourra envisager ces discussions tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, si vous stipulez un forfait Alors même qu'on est dans la rémunération proportionnelle, la question est de savoir, c'est d'abord si vous pouvez le faire, et est-ce qu'on ne sera pas effectivement dans une disposition contraire à l'ordre public. Eh bien, on pourrait dire a priori oui, si vous voulez faire un forfait qu'il est plus avantageux, pourquoi pas, si ce n'est pas déséquilibré. Eh bien, le juge tient ce texte pour impératif, d'ailleurs le texte dit bien la cession doit comporter, de telle sorte que ben, vous pouvez prévoir un forfait en plus de la rémunération proportionnelle, mais vous ne pouvez pas substituer un forfait à la rémunération proportionnelle. Ici, le juge est assez, assez radical. Toujours à propos de ce prix proportionnel, la question est de savoir comment est-ce qu'on va le déterminer, ce prix proportionnel. Ça, c'est la disposition, toujours l'article L131.4, qui nous dit que la cession doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Alors, de quoi s'agit-il ? Selon la Cour de cassation, il s'agit du prix payé par le public pour accéder à l'œuvre. Ce prix ne comprenant pas les taxes, et notamment pas la TVA. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il n'y a aucune raison, finalement, pour que l'auteur supporte les frais d'exploitation des œuvres. Donc, ça veut dire que si vous calculez ce prix sur des redevances, sur les recettes éditeurs ou sur le chiffre d'affaires, effectivement, de l'entreprise, entre guillemets, ce n'est pas possible, selon, encore une fois, le juge. Bon, il y a beaucoup de jurisprudence lorsqu'on essaie de faire payer, en fait, quelque sorte, l'auteur, déduire des rémunérations au titre des frais de prospection d'agents littéraires. Là, effectivement, ça ne va pas. Alors, ce qui est important à souligner, surtout ici, c'est que pour que cette règle joue, eh bien, il faut une vente de support matériel, comme c'est le cas, par exemple, de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle ou l'exploitation sous forme de vidéogramme, d'un produit multimédia. Bon, là, il n'y aura pas de difficulté. Mais lorsqu'on se retrouve en présence d'une exploitation de l'œuvre sur Internet, à ce moment-là, il n'y aura pas, à proprement parler, de vente de support. Et ce qui veut dire, en quelque sorte, qu'on va être obligé de prendre en compte d'autres éléments pour déterminer cette rémunération. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on a effectivement certains modèles, mais à mon avis, on est plus ici dans le forfait que dans la rémunération proportionnelle. Alors, je laisse cette question pour l'instant de côté, j'y reviens dans un instant. Toujours dans cette rémunération proportionnelle, la question est la question du taux de la rémunération. Quel taux doit-on fixer pour déterminer ce prix? Ici, c'est assez simple. Ce prix est laissé à l'appréciation des parties. Ça peut être un prix fixe ou progressif. Il peut comporter ou non des avances. On peut prendre ou non en compte les usages professionnels. Ici, il n'y a pas véritablement de difficulté. Enfin, dernière précision sur ce prix proportionnel, la question de la sanction. Que se passe-t-il effectivement lorsqu'on s'éloigne finalement de ces règles que je viens de vous présenter rapidement, de l'assiette, prévoir un forfait à la place d'une rémunération proportionnelle? Eh bien, ici, on doit se tourner vers une nullité. Nullité effectivement de la clause et du contrat, éventuellement, plus précisément une nullité relative. On considère que c'est dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, donc on est à une nullité de protection finalement, avec tout ce qui en découle au niveau du régime de la nullité relative. Donc je vous le rappelle, pas de possibilité, une possibilité pardon, de confirmation, renoncer à des conditions claires à la nullité. Pas de possibilité d'intenter une action si on n'est pas parti au contrat, et puis une prescription qui est une prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Voilà donc pour cette première règle, qui est la règle donc de la rémunération proportionnelle et qui, vous l'avez compris, est le principe dans notre droit d'auteur. Ce principe supporte des exceptions parce que finalement cette rémunération proportionnelle, elle a quelque chose d'un peu contraignant. C'est pourquoi l'article L131.4 alinéa second énonce un certain nombre d'exceptions, soulignant toutefois la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants. Donc on va se tourner exceptionnellement vers le forfait. Alors, il y a plusieurs cas qu'on peut regrouper finalement par famille. Tout d'abord, c'est, je dirais, l'hypothèse où il y a impossibilité de mettre en œuvre la rémunération proportionnelle. On ne peut pas mettre en œuvre la rémunération proportionnelle. Bon, ce qui peut effectivement tenir à plusieurs choses, c'est ici le premièrement qui nous le dit, la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être pratiquement donc déterminée. Alors, à quoi est-ce que cela correspond ? Ça correspond à l'hypothèse d'une communication de l'œuvre au public sans paiement direct d'un prix. Alors, exemple, le cas donc d'un prix payé par le public qui inclut des prestations qui, finalement, rendent impossible l'identification de la part qui correspond à l'exploitation de l'œuvre. Exemple, vous accédez à une boîte de nuit, bon, c'est tout le contentieux, la SACEM, eh bien, ça comprend un prix d'accès à la salle, un prix d'accès aux boissons, et donc, effectivement, ici, on ne peut pas véritablement déterminer cette assiette. On retrouve également, et c'est là que ça devient, me semble-t-il, plus proche de vos préoccupations, lorsqu'on est en présence d'une exploitation en ligne. Lorsqu'on est en présence d'une exploitation en ligne, a priori, on pourrait dire, le principe de la rémunération proportionnelle trouve à s'appliquer ici comme ailleurs, sauf que l'exploitation en ligne, parfois, s'éloigne largement de ces schémas. Alors, quand, par exemple, un internaute va payer un opérateur qui est souvent un opérateur de télécommunication, une somme forfaitaire en contrepartie de l'accès à un catalogue que le dit opérateur va mettre à disposition des internautes, souvent dans une offre globale. C'est effectivement Free qui va vous donner accès à un catalogue et puis qui va effectivement vous proposer tout un tas de services. Il est bien évident ici que l'œuvre n'est qu'une composante, finalement, du site, même si elle peut avoir un rôle d'attraction particulier. On va effectivement se tourner vers tel opérateur parce que tel opérateur a effectivement un contrat avec le producteur de Madonna, par exemple. Eh bien, ce n'est pas l'objet d'une exploitation propre. De surplus, ici, on a des recettes qui sont des recettes indirectes pour l'exploitation du site. On pense notamment aux recettes publicitaires qui vont assurer finalement la rémunération. De telle sorte, si vous voulez, qu'il est difficile de rentrer dans le cadre du texte que je vous ai décrit, article L131.4, selon laquelle la rémunération proportionnelle doit être assise sur les seules recettes issues directement de l'exploitation de l'œuvre. Ici, c'est pas véritablement le cas. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, c'est intéressant parce que les rédacteurs de ce type de contrat, en général, se sont, appuyés sur une jurisprudence qui avait strictement rien à voir, qui a été adoptée en 1985, c'était encore une jurisprudence à propos de la SACEM. Dans un arrêt de 1985, la Cour de cassation avait souligné que les conditions de type forfaitaire peuvent consister en une redevance calculée sur le montant, y compris la TVA, de prestations étrangères à la diffusion des œuvres du répertoire considéré. De prestations étrangères à la diffusion des œuvres du répertoire considéré. Et on a, des accords qui vont même plus loin. J'ai notamment relevé un accord qui concernait des œuvres qu'on a évoquées ce matin, des œuvres journalistiques, un accord qui date de 2000, où l'assiette retenue n'est pas, constituée seulement des recettes, mais ce qu'on appelle le potentiel commercial. Potentiel commercial du site, qui en inclut donc d'une part les tarifs publicitaires et d'autre part le nombre de pages qui ont été vues et qui comporte pour objet, effectivement, l'œuvre, objet de l'accord. Voilà. Donc, première, exception pour l'exploitation en ligne, il me semble que, dans ce cadre-là, on est très éloigné du principe de la rémunération proportionnelle. Ensuite, le texte envisage d'autres exceptions, qui sont là, on va dire, plus ou moins imprégnées d'une certaine vision économique des choses. On nous dit que le forfait est ainsi possible lorsque les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut, lorsque les frais d'opération de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre. On peut ici prendre l'exemple des œuvres multimédia, pour lesquelles finalement les nombres d'emprunts ou aux œuvres préexistantes rendent finalement les frais de gestion d'une rémunération proportionnelle beaucoup trop lourds. C'est beaucoup trop onéreux finalement de contrôler finalement tout cela de telle sorte qu'on va plutôt se tourner vers une rémunération forfaitaire. Ensuite, cette disposition, alinéa 2, donc quatrièmement, autorise le recours au forfait lorsque, je cite, « la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle » soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, bon, je sais pas, moi, par exemple, une, une préface dans un ouvrage, une annotation, bon, effectivement, c'est pas l'élément essentiel, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité. Bon, c'est effectivement, là aussi, d'autres exemples, ça a été jugé pour des décors et une mise en scène d'un opéra, où on a considéré effectivement que l'élément était tout à fait accessoire par rapport à l'œuvre dans son entier. Enfin, on a un renvoi au logiciel et dans le sixièmement, aux autres cas prévus au présent code, c'est-à-dire finalement, notamment, le contrat d'édition qui est envisagé à l'article L132.2.6. Donc, voyez dans tous ces cas, on s'éloigne finalement du principe de la rémunération proportionnelle pour se tourner vers la rémunération forfaitaire. J'ajouterai, pour finir sur cette question de la détermination du prix et pour rester dans les temps, que le législateur a prévu donc des dispositions pour que notre auteur soit en mesure de connaître, je dirais, le montant de ses droits, ce qu'on appelle la reddition des comptes. Bon, c'est les articles L132.13 et 14 pour le contrat d'édition. Et enfin, le paiement, à quel moment le paiement doit intervenir. Là, il n'y a pas de disposition du Code de la propriété intellectuelle. On s'accorde pour dire que le paiement doit s'intervenir au moment de la remise de l'ouvrage dans le cadre du forfait, avec une précision importante, c'est que les avances ou les avaloirs de l'éditeur sont traités par la pratique comme un dédit, ce qui veut dire en quelque sorte que si notre éditeur ne publie pas, eh bien, l'auteur va pouvoir effectivement conserver ses sommes, soit ça intervient annuellement avec le versement proportionnel. Voilà, si rapidement présenté, donc ces deux axes, le principe de la rémunération proportionnelle et les exceptions de la rémunération forfaitaire. Alors, pour terminer, il faut aussi observer que ce prix que je viens de vous présenter ainsi rapidement n'est pas un prix intangible, c'est-à-dire que exceptionnellement, parfois, on va pouvoir le réviser, ce prix. Alors, de quelle manière ? De quelle manière ? Eh bien, il y a tout d'abord la manière, encore une fois, du droit commun. Plutôt que d'aller solliciter les dispositions du droit d'auteur, on peut encore une fois se tourner vers le droit civil. Alors, dans le droit civil, on a quelques décisions sur ce qu'on appelle le prix dérisoire. Mais de manière plus intéressante, on pourrait songer à solliciter un texte très en vogue aujourd'hui dans le droit des contrats, qui est l'article 1134, alinéa 3, qui est le principe en vertu duquel l'on doit exécuter les contrats de bonne foi. Alors, comment pourrait-on faire le lien avec la question de la révision du prix ? Eh bien, si on s'inspire de la jurisprudence rendue en matière de contrats de distribution, on considère finalement que l'opérateur qui refuse de renégocier une convention qui serait fortement déséquilibrée, eh bien, méconnaîtrait le principe des contrats d'exécution de contrats de bonne foi. Donc, ça n'a pas donné lieu, à ma connaissance, d'application dans le contrat d'auteur, mais il n'y a pas de raison de ne pas solliciter ce principe ici. Donc, première alternative, se tourner vers le droit commun. Sinon, il faut se tourner vers le droit d'auteur. Et dans le droit d'auteur, on a des dispositions tout à fait originales en ce qui concerne la révision du prix. Disposition donc qui figure à l'article L131.5, qui envisage, bon alors là c'est aussi des discussions académiques, un ou deux cas, je dirais, de révision. Moi il me semble qu'il y en a deux. Le premier, ce serait plutôt la lésion, et le deuxième, ça serait plutôt ce qu'on appelle l'imprévision. Alors, quelle est la différence ? La lésion, ça c'est intéressant parce que dans le Code de la propriété intellectuelle, c'est une disposition qui va s'inspirer d'une disposition du Code civil qui est rendue en général en matière d'immeuble. On peut dire que c'est surprenant finalement d'aller se servir finalement d'une disposition qui concerne les immeubles, l'exploitation d'une œuvre et la possession, la propriété d'un immeuble, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'empêche que dans le Code civil et dans le Code de la propriété intellectuelle, on considère que lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus des 7/12, à ce moment-là, il va pouvoir envisager une révision. Donc ça veut dire que on se situe au moment de la formation du contrat, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est au moment de la formation du contrat, on va comparer ce prix avec un prix négocié par d'autres créateurs d'un secteur professionnel, et on va s'apercevoir que finalement, ben, ce pauvre auteur s'est fait avoir en quelque sorte. Et donc, on va envisager une révision de son contrat sur la base donc de cette disposition inspirée du Code civil. Et puis, on a une deuxième, je dirais, un deuxième cas de révision qui est encore plus surprenant, parce qu'en droit civil, en général, c'est un peu le diable, cette théorie, ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. En théorie de l'imprévision, ça veut dire que finalement, vous avez conclu un contrat, il n'était pas déséquilibré au moment de la formation, et puis surviennent un certain nombre d'événements au cours de l'exécution qui font que ce contrat devient déséquilibré. Est-ce qu'on peut revenir finalement, est-ce qu'on peut rééquilibrer ce contrat ? En droit civil, depuis un célèbre arrêt qu'on appelle l'arrêt canal de Craponne, qu'on enseigne à nos étudiants, et on dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, et voilà. Et puis depuis 200 ans, on maintient cette jurisprudence. Bon, il y a eu effectivement quelques tentatives. Et bien, en droit d'auteur, c'est possible. C'est possible. On a effectivement, dans certaines mesures, l'admission de cette théorie de l'imprévision. Encore faut-il, et ça, ça a donné lieu à une décision intéressante par laquelle je vais terminer, encore faut-il qu'il y ait un véritable forfait et qu'il y ait, au sens du texte, des produits de l'œuvre à comparer avec le forfait. Alors, c'est ici une décision qui a été rendue donc le 14 juin 2007 de la Cour de cassation. Il s'agissait en fait de deux compositeurs qui avaient réalisé une petite musique qui était destinée à sonoriser un réseau de téléphonie mobile. Et ils avaient reçu 30 000 euros dans le cadre donc du contrat de commande, et en contrepartie de la cession des droits patrimoniaux, ils devaient en plus recevoir une rémunération forfaitaire de 5 500 euros par année d'exploitation. Et ces deux compositeurs ne considéraient que ce n'était pas suffisant, puisqu'ils vont réclamer à l'opérateur 900 000 euros par année d'exploitation. Donc effectivement, ils étaient très gourmands, et donc s'appuyaient sur cette disposition que je viens de vous présenter, l'article L131.5, ce qui va être refusé par les juges du fond et par la Cour de cassation. Pourquoi ? Alors, c'est intéressant de relever la formule de la Cour de cassation, qui nous dit qu'on a constaté que l'œuvre musicale d'une durée de quelques secondes n'était utilisée que de façon accessoire par la société Bouygues Télécom comme identifiant sonore pour son réseau de téléphonie mobile. La Cour d'appel a exactement retenu qu'une telle utilisation n'engendrait aucun produit au profit de la société, et en a déduit à bon droit que le forfait en contrepartie duquel l'œuvre avait été cédée n'était pas soumis à révision, à défaut donc de remplir les dispositions de ce texte. Autrement dit, si vous voulez, cette petite musique n'engendrait pas des produits pour l'opérateur de téléphonie mobile, le public ne payait pas pour y accéder, et donc on ne pouvait pas faire jouer cet article en L131.5, mais toujours est-il qu'il y a toujours la possibilité de faire jouer cette théorie de l'imprévision. Voilà, ainsi rapidement présenté. D'une part, la détermination du prix, vous avez compris, le principe, c'est la rémunération proportionnelle, l'exception, les rémunérations forfaitaires. Ce prix n'est pas intangible, il peut se prêter à révision. Merci de votre attention.
Merci, chers collègues. J'invite maintenant les participants à la table ronde à vous rejoindre à la tribune pour dialoguer avec vous. Michel Armat, qui est le directeur d'Onège de Paris Dauphine. Jean-Bernard Le Bourdon, qui nous a rejoint tout à l'heure et qui est délégué au système d'information de Toulouse 1 et un des piliers de l'UNJF. Le président Metz du Chambon, que vous connaissez, et notre collègue Carole Nocera-Pican, qui est chargée de mission pour UVED.
Vous avez pu observer combien le programme avait été bien pensé, compte tenu du lien entre ce que l'on a dit ce matin et les propos qui vient d'être tenu, notamment en ce qui concerne l'intérêt de la qualification d'une œuvre collective, ce qui facilite le choix de la rémunération forfaitaire, et Dieu sait que c'est important, parce que la rémunération proportionnelle sur des enseignements numériques, c'est d'une difficulté considérable. Comment, en effet, peut-on calculer cette proportionnalité ? Donc, on sera inéluctablement conduit à envisager...
Patrick, veux-tu bien parler dans le micro, parce que la régie ne t'entend pas.
D'accord.
Marche, mais c'est pour que tu sois enregistré.
Donc, j'étais en train de vous dire combien il était important que l'on puisse qualifier d'œuvre collective ces prestations pédagogiques pour faciliter le choix, bien sûr, d'une rémunération forfaitaire, afin d'échapper, bien sûr, aux difficultés de la rémunération proportionnelle. Alors, vous avez abordé un problème au début, à savoir entre la gratuité et le caractère onéreux des ressources numériques. Je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, la gratuité, le problème de la gratuité dans certaines disciplines ne peut pas se poser à partir du moment où il existe un marché. À partir du moment où il existe un marché concurrentiel, si véritablement nous options pour la gratuité des ressources numériques, je crois que nous n'intéresserions pas grand monde et qu'on aurait beaucoup de mal à pouvoir constituer donc ces coûts. Alors, il y aura un problème sur lequel nous aurons probablement à réfléchir tout à l'heure, qui est le problème de la détermination du prix d'une ressource numérique. Quels sont les critères que l'on peut prendre en considération? Comment peut-on fixer, d'accord, le prix d'un cours numérisé? Ça, c'est une chose sur laquelle nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Et puis, je crois très sincèrement qu'il y a une forme de symbolique de la rémunération et une modalité, je dirais, presque de sélection. Je m'explique, et je voudrais choquer personne, donc je vais essayer de faire en sorte de prendre les termes les plus neutres. Il faut bien comprendre que nous sommes sur un marché concurrentiel, nous avons déjà des ouvrages de très grande qualité avec des auteurs, et il faut faire en sorte que ces enseignements numérisés n'attirent pas, je dirais, les sinistrés de l'édition, qu'il s'agisse de l'édition juridique, qu'il s'agisse dans d'autres disciplines, en d'autres termes, que des gens qui n'ont pas accès à l'édition par une absence de notoriété, par une insuffisance de compétences, eh bien, soient tentés de venir produire des cours numérisés, ce qui serait, à mon sens, la mort de l'enseignement numérique. Il faut que l'on soit capable d'attirer également les meilleurs dans chaque discipline pour constituer ces cours numériques. Alors, la rémunération n'est pas en elle-même, ou le montant de la rémunération n'est pas le critère, mais le principe de la rémunération me paraît essentiel dans une discipline dans laquelle il y a un marché qui est un marché concurrentiel. Alors, ça nous renverra à la question tout à l'heure de la détermination des critères. Quels sont les critères que l'on peut prendre en considération pour fixer le prix d'un cours numérique? Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que dans toutes les UNT, compte tenu de la discipline, ces critères soient forcément totalement identiques. Alors voilà ce que je souhaitais dire en préalable sur ce problème de la rémunération, étant entendu que pour moi, c'est une question qui est une question de principe. Je ne crois pas d'ailleurs d'une manière générale à la gratuité, ne serait-ce que parce que ces cours ont vocation à être pérennisés, qu'ils doivent être réactualisés, et que si on n'intéresse pas des gens à la production de ces cours numérisés, on n'aura aucune chance qu'ils répondent aux objectifs pour lesquels ils ont été constitués. Et je dirais que c'est particulièrement vrai en droit, puisque vous savez que l'inflation législative et réglementaire qui existe fait que les cours deviennent très vite obsolètes et doivent être remis à jour, et que c'est notre problème. D'ailleurs, je crois que M. Le Bourdon va pouvoir nous en parler, lui qui est confronté quotidiennement à ce type de difficultés.
Je peux prendre le relais, effectivement. Dans un premier temps, pour dire que la gratuité, j'y crois à peu près un an. Au-delà, ça ne marche plus. L'enthousiasme délirant des débuts, hein, je le vois dans tous les domaines, mettre des ressources en ligne, ça fonctionne. Il y a toujours des pionniers. La deuxième année, quand il s'agit de faire la tâche ingrate, de mettre à jour les cours ou de s'adapter à un cahier des charges qui aurait été défini, on ne voit plus personne. Je ne suis pas là pour faire le théoricien du droit, mais j'ai été chargé de faire la mise en pratique concrète. Alors c'est bien que ce qui a été dit fort savamment tout à l'heure, moi je l'ai vécu, mais successivement dans le temps, je ne me suis pas posé la question, forfait, pourcentage, je les ai tous faits. J'ai d'abord connu l'auteur qui était l'enseignant, en fait. Il connaissait le groupe d'étudiants auxquels il s'adressait, il tutorait lui-même, il posait les sujets d'examen, il les voyait par visioconférence ou en présentiel, et il corrigeait les épreuves. C'était l'enseignant qui avait... La ressource numérique n'était pas l'essentiel du débat. Si bien qu'on les rémunérait en référence au service, tout simplement, comme s'il avait fait un service en présentiel. Deuxième étape, à l'époque des appels à proposition campus numérique, l'échelle a beaucoup grandi, on s'est trouvé confronté à une multiplicité d'universités qui utilisaient les ressources d'un même auteur. L'auteur ne connaissait plus les étudiants. Et par contre, on était dans un système où l'étudiant, essentiellement en formation continue, rémunérait l'accession à l'œuvre. Si bien que là, on s'est dit, on va effectivement jouer à règle du droit, un forfait à la création, pour appâter un peu les auteurs, et puis pour la mise à jour, tout simplement, un forfait de 15% significatif donc, par rapport aux usages qu'on voit dans l'édition, et calculé sur l'assiette, effectivement, alors on ne fait pas prendre en compte le coût payé par chacun des étudiants, qui était extrêmement variable, au sein même d'une même université. Enfin, dans l'information continue, vous savez qu'ils jouent de ça pour multiplier les occasions d'avoir du public. Mais sur un forfait que nous-mêmes on désignait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché, on y est arrivé. Sauf qu'on est arrivé à des, selon que l'œuvre était très utilisée ou très peu, à des auteurs qui recevaient plus de 1000 euros, alors ils recevaient 15 euros. Vous devinez bien que ça n'a pas marché très longtemps. Si bien qu'immédiatement, on a rectifié le tir en disant, il y a un minimum. Tant mieux si vous avez plus, mais on vous garantit un SMIC, en quelque sorte, de mise à jour de votre œuvre à 500 euros. troisième temps dans les auteurs, ça c'était l'auteur écrivain en quelque sorte, hein, c'était l'auteur qui est multimédia, il est intégré dans une équipe désormais. C'est-à-dire il agit plus seul, il travaille avec des collaborateurs qui font des cas pratiques, des scénarios de cas pratiques. Le cours est médiatisé par une société. C'est une œuvre, je ne vais pas dire collective, enfin ils sont à plusieurs, je ne veux pas prendre une œuvre collective exprès pour ne pas prendre
une œuvre collective.
Voilà. Ils sont plusieurs à travailler sur l'œuvre. Ouais, j'y étais presque. J'y étais presque. Et surtout, le public visé accède gratuitement à l'œuvre. Et on ne peut plus, dès lors, hein, calculer un pourcentage sur pas grand chose. Sur pas grand chose, c'est pas beaucoup, mais sur zéro, c'est encore moins. Si bien que là, on a tout simplement opté pour un système de rémunération au forfait. Voilà, tout simplement. C'est les expériences que j'ai vécues là, tout au long de ces quelques années où j'ai été. Après, on parlera des problèmes. L'auteur a-t-il rempli ou pas ses conditions de mise à l'œuvre ?
Je crois que ces précisions sont utiles. Alors, nos collègues de Donège et Duvet, vous continuez le tour de table.
Alors, j'enchaîne. À double titre, responsable Donège et économiste. Et comme vous l'avez compris, les questions d'argent, ça nous concerne un peu les économistes.
Je l'ai parfait.
Et comme nous sommes les, et comme nos universités sont les filles des universités de droit, ma foi, on est dans la ligne. Alors, moi, la question de la rétribution, je la rattache à quatre questions toutes simples. Qui sont les gens à rétribuer? Parce que là, c'est pas si simple que ça. On a répondu en grande partie ce matin, donc j'irai vite là-dessus. Deuxièmement, rétribution, pourquoi? Et là, il y a plusieurs raisons possibles. Et troisièmement, sous quelle forme? Et là, il y a plusieurs solutions possibles. Et je donnerai les pratiques qu'on a utilisées en demandant gentiment aux juristes de me dire si j'ai des chances d'aller en prison ou pas. C'est la seule chose qui m'importe maintenant. Et la dernière chose, c'est combien? Parce que vous n'avez pas trop discuté de ça, mais en tant qu'économiste, évidemment, je ne vais pas vous dire combien, ce qui me semble être la norme du combien, mais les différentes valeurs de dire, les différentes manières de faire un calcul qui aboutit à combien. Et il y a différents calculs qu'on a déjà créés. Il n'y en a pas un seul, évidemment. Alors, en deux mots, qui sont les créateurs? Nous, effectivement, on a décidé qu'on rémunérait uniquement les auteurs au sens que vous avez défini ce matin et pas du tout les contributeurs. Pour une raison qu'on n'a pas trop évoquée, mais qui me paraît simple, c'est que nos contributeurs sont soit effectivement des sociétés à qui on commande des prestations, et donc c'est un autre cas, soit en interne, c'est dans leur contrat de faire ce qu'ils font. Donc, alors que pour les auteurs, là je suis très clair par rapport à des... J'ai une expérience qui remonte des campus numériques Canège à Onège, donc elle a maintenant... depuis 2000, ça fait donc 8 ans. Et donc, j'ai eu pas mal de conflits avec mes collègues des autres campus numériques à l'époque. Certains disaient, c'est dans le contrat de l'enseignant de faire un polycopier. Donc, ça l'est aussi de faire n'importe quoi. Or, on est dans une situation actuelle totalement différente. Et pour moi, la clé est très simple. C'est-à-dire, l'auteur qui fait quelque chose pour son cours, il a zéro. Et quelqu'un qui fait quelque chose pour l'ensemble d'une communauté d'utilisateurs, c'est-à-dire d'autres enseignants, ce qu'on fait donc justement en mutualisant dans les... Eh bien, on n'est pas dans la même situation et c'est pas dans son contrat, c'est pas dans son statut. Donc voilà la réponse pour moi pratique, alors vous me direz si elle vous semble tenir la route, de la réponse à qui je rémunère. Voilà. La deuxième question, c'est pourquoi faire? Et là, il s'est posé deux logiques totalement différentes. C'est que les gens venaient me voir en me disant, ben voilà, tu vas être auteur, voilà ce qu'il y a à faire. Et nous, on travaille avec des cahiers des charges, c'est-à-dire qu'on établit un cahier des charges et on discute avec l'auteur sur ce cahier des charges, avant même qu'il y ait forcément un appel d'offres. On peut avoir décidé nous-mêmes qu'on veut développer telle chose, et cette chose est définie par un cahier des charges assez vague, qu'on précise avec l'auteur. Bien. Mais ça peut aussi résulter d'un appel d'offres. Et là, à ce moment-là, l'auteur dit, ça fait combien de travail? Et là, vous avez une autre source de rémunération de l'auteur, c'est le travail. Donc, est-ce qu'on s'appuie sur le travail? Et à ce moment-là, on va tout de suite discuter du nombre d'heures, et c'est faramineux. C'est-à-dire que si je prends ce qu'on a appelé cours complet, il y a un peu l'équivalent de 40 heures en présentiel et 80 heures apprenant, en gros, pour donner un cadrage, bon, bah, c'est 150, 200, 300 heures de boulot. Hein. Donc, évidemment, sur cette base-là, à l'heure de cours des maîtres de conf et des profs, on aboutissait à des choses assez énormes. Si on prend la question, au contraire, des droits, puisque nous faisons depuis le début, depuis Canège, depuis 2001, des contrats de cession de droits d'auteur pour exploitation, eh bien, nous avons discuté de ce que vous venez d'exposer, et nous avons décidé déjà en 2001, avant donc d'ATFI, avant tout ça, que ça serait du forfaitaire, même si nous ne disons pas que l'œuvre est une œuvre collective. Même pour ce que nous sommes restés sur l'idée d'une œuvre individuelle, mais on a appliqué, sans savoir que c'était dans votre droit, ce que vous avez dit, c'est-à-dire il est impossible de mesurer, tout simplement. Donc, je ne voyais pas comment on pouvait, surtout à cette époque-là de balbutiement de l'Internet. Maintenant, on a des tas de compteurs, mais le problème, c'est la multiplicité des façons de compter cette fois-ci. Alors, voici donc donc on a fait finalement un mix. Alors, ce qu'on rediscute aujourd'hui dans ONEGE, c'est doit-on séparer la rémunération entre ces deux composantes? Autrement dit, nous, on a fait ça en cash sex en 2000-2001, c'est-à-dire on vous fait un forfaitaire et ça couvre ces deux choses-là, votre travail et la cession de droit, et on ne vous dit pas quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre. Bon, là, je crois qu'on n'est pas très net là-dessus, hein, c'est ça, hein? Voilà. Donc, je crois que là, il faudrait peut-être être plus net. Voilà. Ce qu'on fait dans les nouveaux contrats, on essaye de séparer ces deux parts. Voilà. Donc, j'en étais à cette troisième facette, et il y en a quatre. Donc, troisième facette, sous quelle forme de rétribution? Alors, donc, j'ai dit forfaitaire, mais il y a un deuxième problème. On paye comment un enseignant? Alors, heures supplémentaires exclues. Ça, on sait qu'on va directement contre la rémunération, le principe des rémunérations qui est uniquement présentiel. On attend toujours que ça change, mais ça fait 15 ans. On ne peut pas rémunérer un prof s'il ne fait pas du face-à-face. Bon. Donc, on doit avoir pour le faire l'aval du président de l'établissement, l'aval du secrétaire général et l'aval des conseils et l'aval de l'agent comptable, ce qui, en général, n'est pas obtenu pour arriver à payer des gens en heures complémentaires. Les primes, elles sont effectivement un peu plus adaptées, sauf qu'elles sont destinées à des responsables pédagogiques et pas à des autres et des personnes individuelles. Dans la plupart des établissements que j'ai vus et dans le mien, c'est destiné, et le volant n'est pas énorme, et donc si vous dites, monsieur le président, je peux prendre la moitié de votre volet d'heures de compte pour rémunérer des auteurs, ça passe absolument pas. Donc on est tombé sur le droit d'auteur, donc on rémunère aussi, nous, en droit d'auteur, c'est-à-dire, effectivement, hein, forfaitaire, donc. Voilà. Alors combien? Dernière question, combien? Je ne peux pas monopoliser le temps de parole. Le combien est une vraie question d'économiste. Donc là, je vous signale qu'il y a beaucoup d'études d'économistes sur cette question-là, y compris européennes. Nous, on participe à des travaux du groupe européen Hélène qui a une étude sur le cadrage économique de ce travail, d'auteur, parce qu'il y a aussi à cadrer le travail de tuteur, mais nous en parlerons plus tard, je pense. Donc pour le cadrage de ce travail d'auteur, il y a plusieurs façons évidemment, il y a plusieurs niveaux. D'abord, ce qu'on constate, c'est étonnant, c'est la disparité de ces forfaits. Bon, une chose à peu près semblable, prenons le cours complet. Il y a d'autres choses, mais prenons le cours complet. On voit des pratiques extrêmement variées sur les différents établissements, et ça se poursuit, je pense, entre nos UNT. Alors, une des premières façons de faire un calcul que j'ai sous les yeux, mais je ne vais pas vous le dérouler, c'est de partir du tarif de l'heure complémentaire, d'estimer sur la base du travail, et puis d'additionner ça avec une autre chose qui serait un droit forfaitaire relativement raisonnable. Bon, on arrive à des fourchettes qui sont de l'ordre de, pour un cours complet, entre 4 000 et 10 000 euros. Ce qui n'est pas bas, hein, ce qui n'est pas très, très bas, hein, c'est une chose importante. Mais pour des produits, pour nous, qui étaient de l'ordre de 50 000, 60 000 euros de budget. Bon, voilà pour cadrer. Alors ça, il suffit de se rappeler quand même qu'une heure d'enseignant n'est jamais... de travail enseignant n'est pas payé une heure, c'est-à-dire pour un cours de 40 heures, vous êtes payé 40 heures et pas 80 ou 100 ou 200 que vous avez mis à faire votre cours, à le concevoir, ok? Donc là, on est payé un tout petit peu plus qu'une femme de ménage, à peu près 20 heures, je crois, si on fait un calcul, 20 euros l'heure, si, dans les calculs que j'ai essayé de faire, hein, un petit peu plus qu'une femme de ménage. Voilà. Autre façon de faire ce calcul, eh bien, c'est le marché. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez répété, et effectivement, est-ce que l'enseignement numérique est-il commerçant, est-il dans un marché, etc. Alors là, le débat fait rage, hein, dans nos universités. La mienne comprend des mathématiciens et des économistes, je peux vous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'il y a deux marchés. Il y a un marché interne d'abord, c'est-à-dire que, et vous pouvez faire de l'économie expérimentale, c'est assez simple à faire. Vous prenez un enseignant, vous lui dites, tu enseignes mais tu fais autre chose à côté. Oui, bien sûr, je fais autre chose à côté, des heures en formation continue, ou bien du conseil. Si je te demande de faire ce travail qui représente la conception d'un cours multimédia, sachant qu'il est relayé pour la réalisation ensuite par des techniciens, des ingénieurs et des ingénieurs pédagogiques, ben, je vois tout de suite qu'il y a un prix de marché qui va s'établir. En dessous d'une certaine valeur, il va refuser, et au-dessus, il va commencer à dire que ça peut l'intéresser. Et ça, il faudrait en parler très clairement. Il faudrait faire les enquêtes, il faut faire ces expériences, et on aura un prix de marché, je dis intérieur, parce que ça veut dire que pour les enseignants de l'enseignement supérieur, hors de tout marché extérieur, européen, mondial, etc. Alors, ça donne des choses assez claires, et ça permet de voir qu'effectivement, Il y a peu de gens qui arrivent à travailler pour rien, et je suis assez d'accord avec votre position. La première année, on va trouver des pionniers. La deuxième, on va trouver des gens qui commencent à dire qu'ils aimeraient bien que leur dimanche et leur week-end qui passent là-dessus, on leur donne une petite compensation. Alors, il y a 10 ans, on leur donne un ordinateur portable. Et c'est, ça ne vaut plus rien. Et donc, maintenant, il faut chiffrer ça. Et il y a maintenant le marché extérieur. Alors, c'est vrai que dans nos universités, les scientifiques n'ont pas beaucoup cette pratique. Nous avons d'énormes, de gros départements de formation continue. Enfin, chez moi, c'est le budget du département de formation continue frôle celui du reste de l'université. Il le dépasse parfois, je crois. Bon, donc, il est clair que là, on vend des formations. Et vous savez, la formation d'un cadre en économie-gestion, combien on le fait payer? Donc, il est impensable que les enseignants qui passent des heures et des heures sur ce travail pour la formation continue ne soient pas rémunérés. Et donc, on retombe sur des fourchettes qui sont celles que j'indiquais tout à l'heure à peu près. Il n'y a pas une contradiction forte là-dessus. Alors le marché, il y a un troisième niveau, c'est le marché mondial. Mais là, évidemment, il faudrait des études très précises pour en discuter. Merci.
Merci. Carole de Sérapicant.
Oui, alors en fait, ce qui m'était demandé, c'était de faire témoignage de ce qui s'était passé en Bretagne, autour du campus numérique de Bretagne. Du campus numérique en VAM, parce que j'ai un peu le même historique que mon collègue de l'ex-campus de France par rapport à la rémunération des enseignants. De toute façon, le tableau des coûts du VED reprend sur une autre échelle à peu près les mêmes proportions. Donc ce qui me semblait, nous, ce sur quoi on est parti pour la rémunération, effectivement, c'est, d'emblée, c'était une rémunération forfaitaire. Parce que effectivement, c'était pas possible je vais pas revenir sur les points qui ont été évoqués. Par contre, ce sur quoi nous sommes appuyés par rapport à d'autres dispositifs qui pouvaient exister à l'interne dans les établissements. Et effectivement, à l'interne dans les établissements, ils n'étaient pas forcément au départ rémunérés quand il y avait des projets qui étaient faits dans le cadre du contrat quadriennal interne de l'établissement, où on sollicitait les enseignants à travailler sur effectivement des cours que nous mettions en ligne, et l'apport de l'établissement qui médiatisait entièrement ses cours par son service TIS, par exemple, était considéré comme quelque chose qui était apporté à l'enseignant. Alors, pour pouvoir prendre en compte l'engagement des enseignants à la fois dans ces campus, on est parti du fait comme critère qu'il s'agissait de la constitution d'équipe auteur. Et là, nous aussi, on ne rémunère que les auteurs, hein, de la même façon que Michel, c'était des équipes auteurs inter-établissement et la plupart du temps interdisciplinaires. C'est-à-dire que nous avons des axes en Bretagne, hein, ça s'appelle management d'entreprise, reprise d'études, il y a aussi environnement et aménagement, un peu plus en VAM, ou internet et audiovisuel. Donc on voit bien que là, l'objectif est de regrouper des enseignants de différentes disciplines autour de la constitution de produits de formation nouveaux. Donc par ce fait-là, originaux, si je puis dire. Donc à partir du moment où on a expliqué que le fait de travailler en collégialité avec d'autres collègues supposait un travail particulier qui ne faisait pas partie de la mission classique de l'enseignant autour de ces 192 heures, mais constituait bien une étape supplémentaire qui supposait des réunions, qui supposait des négociations sur le contenu et sur la cohérence du tout. À partir de là, il était absolument indispensable de prendre en charge l'implication des enseignants dans ces dispositifs. Et donc, ça a été un point clé qui nous a permis très vite de poser un tableau de coûts. Hein. Alors, pour vous donner, moi je vais vous le donner aussi, le tableau de coûts qu'on a en Bretagne. En fait, on fonctionne sur un tableau de coûts d'environ 14 000 euros pour un module de formation. Alors, quand on dit un module de formation, c'est bien la ressource plus le service pédagogique associé. Et c'est important, parce que quand on travaille sur le service pédagogique associé, il y a un travail amont d'anticipation qui est important pour les enseignants, puisque les ingénieurs pédagogiques vont travailler avec les équipes auteurs sur l'ensemble des activités proposées aux étudiants, et pas seulement sur la scénarisation du contenu, mais bien aussi sur le scénario pédagogique d'enseignement de la ressource. Donc à partir du moment où il y a ce double travail à faire, eh bien, il y a effectivement prise en compte de l'implication des enseignants. Et donc, si on part sur une base de 14 000 euros, il y a à peu près 8 000 euros pour la production, c'est-à-dire la réalisation technique, l'intégration, les corrections, la mise en ligne, et je dirais les consommables de façon marginale, 1000 euros d'ingénierie pédagogique, hein, et 4600 euros pour les auteurs, répartis comme suit, 4000 euros pour, qui correspondent à 100 HTD, alors vous allez dire, mon Dieu, des heures complémentaires, mais tout simplement parce qu'au début, on a payé en heures complémentaires. Alors après, on s'est fait tirer...
J'ai demandé si on allait aller en prison.
Mais on a, pendant 3-4 ans, pendant les 3 premières années, on a payé en heures complémentaires les enseignants. Donc une enveloppe de 100 HTD plus 600 euros, c'est-à-dire 15% de ces 100 HTD en forfait de droit d'auteur à signature du contrat. Donc, si vous voulez, après, on s'est trouvé devant les cas de figure suivants. Donc, en fait, hein, c'était... Et pourquoi l'enveloppe de 100 pour l'équipe auteur, hein, quand il y en avait deux, c'était 60 heures HTD, et deux et plus 100. Bon, et alors, ce à quoi on était confrontés, c'était évidemment les enseignants qui... Alors, avant que la Cour des comptes nous dise qu'on ne pouvait pas payer un complémentaire, c'était les enseignants, donc, qui voulaient bien être payés un complémentaire, des enseignants qui voulaient que ce soit défalqué sur leur service... Des enseignants qui ne pouvaient pas faire d'heures complémentaires. Donc on a eu tous les cas de figure, ça, je dirais, dans les 3 dernières années. Et bon, quand même, si sur Embam, il y a à peu près 150 enseignants chercheurs auteurs, et sur le campus numérique dans son ensemble, encore à peu près 200. Hein. Donc ça touche quand même 500-600 enseignants chercheurs et experts. Et puis en plus, on avait dans les auteurs des experts qui n'étaient pas enseignants chercheurs. Donc, nous trouvons devant ces différents cas de figure, on a proposé, en fait... on a dit aux établissements, vous nous donnez les éléments de votre politique. Et nous, on paiera en fonction de la politique de l'établissement. Donc certains établissements ont fait des primes pédagogiques qui étaient donc défalquées du service des enseignants. Dans ce cas, on paye l'établissement. Hein? Quand c'était possible de faire payer des heures complémentaires et qu'il y avait une autorisation de cumul, on payait des heures complémentaires. Maintenant, on ne peut plus le faire. Troisième solution... Quand c'était un expert ou qu'on ne pouvait pas payer en heures comp, et maintenant c'est ce qu'on fait un peu systématiquement, on convertissait les heures HTD en droits d'auteur qu'on ajoutait au forfait des 15%. Et donc maintenant c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on paye les enseignants, de cette façon-là. Ce qui me semble aussi important à dire, c'est que cet engagement donc de rémunération en fait de l'implication... comporte carrément un protocole d'ingénierie hein, sur 5 réunions avec du travail à faire entre, donc c'est très précis. Et puis, ça comporte aussi la mise à jour sur les 6 ans que dure le contrat d'auteur. Voilà. Donc, il y a une mise à jour qui, tant qu'elle ne va pas au-delà de 30% du module, de réfection du module, sont comptées dans le forfait. Et par contre, la deuxième chose qui n'a pas fait l'objet de l'intervention là, c'est que quand les enseignants donc assure le suivi du module en ligne, puisque c'est bien une formation complète avec toutes les activités qui sont prévues. On remet un guide du tuteur à tous les enseignants qui suivent en ligne. Là, ils sont rémunérés dans le cadre de leur service. Hein. Donc, ils sont rémunérés, je dirais, à la conception et à la prestation, si je puis dire, de suivi qu'ils peuvent faire en formation continue ou en formation initiale.
Merci Carole.
Et dans Uvette, sur une logique similaire, il y a une répartition du même.
Merci. On va laisser Jean-Michel Bruguière réagir à ce qu'il a entendu, puis après ce serait bien par un jeu d'aller venu oral, court, là, d'instituer un peu d'interactivité comme ce matin. Oui.
Hein? En fait, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, je prends juste deux points. Il me semble, et là il faut être ferme, hein, qu'il y a une confusion énorme entre, je dirais, ce qui relève de la partie travail et ce qui relève de la partie droit d'auteur.
Voilà.
C'est une question classique en matière de droit d'auteur, à travers ce qu'on appelle les créations de salariés, de savoir si le droit d'auteur va être attribué à l'employeur en contrepartie du salaire. En quelque sorte, beaucoup de gens le disent en quelque sorte, et la Cour de cassation toujours très fermement a dit non, vous ne pouvez pas confondre les deux éléments. Il y a la partie prestation de travail et puis il y a la partie droit d'auteur. Or là, ce qui me gêne dans, je dirais, vos présentations, dans la manière dont vous déterminez le prix, c'est que vous ne déterminez pas, vous ne ventilez pas la partie forfait et la partie droit d'auteur, pardon, et la partie travail.
Si on avait une partie forfait de 15% et la partie travail. Mais non. Le problème, c'est qu'on est obligé de mêler les deux.
Oui. Je pense que là, il faut impérativement bien distinguer les deux. Hein. Une chose est. Et donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, si j'ai bien compris votre présentation sur l'idée que lorsque c'est interne à l'établissement, c'est un peu finalement l'enseignement qui est dû dans le cadre. Mais par contre, lorsqu'on sollicite des personnes extérieures.
C'est en négociation, si vous voulez, mais quand il y a un projet qui implique des équipes auteurs interétablissements et interdisciplinaires, c'est un cas de figure qui est particulier, qui nous a permis d'emblée de poser la question de la rémunération.
D'accord.
Alors qu'il y avait eu des projets, si vous voulez, antérieurs, qui ne prévoyaient pas forcément la prise en compte du temps de l'enseignant.
D'accord. Mais là, ça rebondit sur une question, je dirais, qui, à mon avis, est essentielle aussi, qu'on a eue aussi lorsqu'on a envisagé les questions des créations de services publics. Oui. On se posait la question de savoir qu'est-ce qu'un enseignement, un enseignant doit dans le cadre de son service. Jusqu'où va le service, l'enseignement? Voilà. Alors, on a des pratiques, par exemple, les commissaires du gouvernement, je sais, effectivement, vont conclure et vont considérer que lorsqu'ils concluent oralement, ça appartient finalement à l'État, en quelque sorte, mais lorsqu'ils ont fini de conclure, eh bien, ils peuvent vendre, en quelque sorte, leur conclusion à un éditeur privé. Bon, voilà, l'enseignant, il pourrait aussi se dire, moi, je vais jusque-là, et puis j'ai épuisé ma mission de service public, et puis ensuite, je vais valoriser, à titre droit d'auteur, autre chose.
Donc, il semble que la limite pourrait être, justement, vos étudiants,
mais
pas l'enseignant.
Mais je crois que c'est la limite. Savoir si on s'adresse à sa population d'étudiants ou si les ressources sont les mêmes à disposition de l'ensemble de la communauté.
Voilà, c'est ça.
Quand on a un service, il est en fonction des étudiants que l'on met en, que l'on met en présence. Ensuite, si vous diffusez des ressources à des universités indéterminées, vous sortez du cadre de votre service et le problème se pose différemment.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de négocier.
Moi, quand je vous écoutais, madame, j'étais le vieux doyen que je suis, était un petit peu inquiet. J'appelle ça le système ou le syndrome de l'IUT. En d'autres termes, se servir des heures complémentaires pour payer tout sans distinction. Et on sait combien, de ce point de vue-là, nous sommes contrôlés. Alors, je sais bien, ça a été les projets tutorés, ça a été les mémoires tutorées, ça a été la manière des IUT de gérer des fonds publics avec parfois des coûts qui étaient des coûts tout à fait considérables. J'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps, comme directeur d'un département d'IUT, il y a 30 ans, c'est sûr que quand on faisait des mémoires, chaque directeur de mémoire touchait, je crois, 6 heures complémentaires à cette époque-là, pour des mémoires, pour qu'ils soient présentables, on mettait les couvertures en contreplaqué. C'était tout à fait excessif, et je le dis très franchement, tout à fait anormal, et je me souviens, quand on a eu des discussions sur la licence professionnelle, que le problème de la rémunération de tous ces projets pédagogiques accessoires, et comment doivent-ils être payés? Moi, en ce qui concerne les cours numériques, je vous invite à revenir à des choses simples, c'est-à-dire à revenir sur le droit d'auteur. Ensuite, les modalités de la rémunération, c'est un autre problème. Et pour en revenir à ce que disait notre collègue économiste, ce qui est intéressant dans cette réunion, c'est de s'apercevoir que les pratiques sont tout à fait différentes selon qu'il y a un marché d'édition ou qu'il n'y a pas de marché d'édition. Quand nous nous sommes posés le problème de la rémunération des cours numérisés en droit avec Yann Tanguy, il s'avère que, accessoirement à mes fonctions universitaires, j'ai des responsabilités dans une grande, grande maison d'édition juridique comme conseiller donc scientifique. Bah, j'ai pris, moi, le nombre d'acquéreurs moyens pour un ouvrage qui est un ouvrage de droit. On a essayé de faire un prix qui était un prix moyen, de l'ordre de 25 euros. On sait que les auteurs aujourd'hui, les vieux auteurs touchent un peu plus, mais les auteurs aujourd'hui touchent entre 8 et 10%. Et donc, on a fait le calcul de ce que touche un juriste qui fait un bouquin dans l'édition privée. Et puis, on a essayé de se rapprocher pour faire en sorte de devenir concurrentiel et de faire en sorte que ces auteurs, s'ils ont le choix entre un livre classique et un cours numérisé, eh bien, soient tentés de venir chez nous avec, bien évidemment, également une rémunération pour chaque fois qu'il est amené à mettre à jour le cours. Et c'est comme ça que l'on a été amené à calculer le cours numérisé. Et c'est vrai que ça a un avantage, c'est qu'en ne partant pas des heures nécessaires pour constituer un ouvrage, on arrive à déterminer des coûts qui sont acceptables, parce que si en effet on prend les ouvrages que tous nous avons écrits, le traité, le temps passé pour constituer le traité de la propriété littéraire et qu'on paye en heures complémentaires, je pense que André Lucas a de bons jours devant lui. Et même si son traité a un grand, grand succès, et que là, il est très au-dessus, bien évidemment, du prix moyen, il fait pas fortune et qu'il n'y a pas un rapport, et que s'il réduit ça au coût horaire, il sera même très en dessous d'une femme de ménage. Mais il faut rester dans la logique, je crois, qui est la logique du marché. Alors Yann, je me souviens plus, nous on propose un forfait au départ qui est de
2300 euros.
Voilà, qui est de 2300 euros, avec ensuite 1000 euros par an pour actualiser.
Pour les mises à jour, du coup.
Ce qui fait que ça me paraît, moi, relativement raisonnable. Alors, c'est sûr qu'il y a des juristes qui ont des succès. J'en étais avec un de mes collègues qui vend 40 000 livres de droit par an.
C'est
l'exception. Enfin, voilà. Il y a quand même des... Bon, j'ai une petite idée, quand j'ai quelques ouvrages, c'est en moyenne entre 1500 et 2000 exemplaires par an pour un livre qui marche correctement en droit. Donc, vous faites le calcul très rapidement, mettez 25 euros, 10%. Vous voyez, ça fait 2,5 euros. Et compte tenu du nombre, vous avez un coût qui est un coût qui est économiquement relativement satisfaisant.
Merci. Et le moment est venu d'arrondir la table ronde, comme ce matin, toute la salle maintenant. Et M. Bonnotal est dans la salle, a demandé la parole. M. Bonnotal est sous-directeur à la direction des affaires juridiques de notre ministère. Pour l'enseignement supérieur. Et il a l'avantage de voir remonter des questions difficiles vers lui.
J'ai pris quelques notes, mais elles ne se traduiront pas par des articles 40, je vous l'assure. Oui, je voudrais, alors j'ai été très intéressé à l'époque par l'exposé de cadrage de M. Bruguière et par les récits d'expérience, qui m'ont rappelé une discussion à peu près dans les mêmes termes qu'on avait eue à Lyon il y a 2 ans. Alors, je vais peut-être apporter quelques éléments de réflexion et puis quelques éléments de recadrage et quelques informations sur des évolutions possibles. Alors, sur l'élément de réflexion, le régime pur et parfait du droit d'auteur et de sa rétribution décrit par M. Bruguière ne me semble pas pouvoir s'appliquer avec la même exactitude dans le contexte des agents publics. Même si, M. Nicole a rappelé fort justement ce matin, depuis 2006, depuis la loi d'AFSI, il n'y a plus de doute sur le droit d'auteur, du fonctionnaire, même s'il s'exerce dans un cadre un peu particulier, et sur le droit à rémunération de ce droit d'auteur par la collectivité publique qui emploie le fonctionnaire. Mais, vous rappeliez, M. Bruguière, fort utilement, que pour l'auteur, la rémunération qu'il tire de son droit a un caractère alimentaire. Pour le fonctionnaire, la rémunération d'un droit d'auteur n'a pas un caractère alimentaire, elle a un caractère indemnitaire. Elle a un caractère indemnitaire et elle correspond, parce qu'elle correspond nécessairement à une activité soit accessoire, soit à un effet accessoire de son activité. Ce qui est à peu près la même chose. Alors, donc le régime que vous avez décrit ne me paraît pas applicable. Quel est le régime qui est prévu, mais il est prévu directement par la loi d'AFSI et il renvoie, puisqu'il s'agit d'un mécanisme de rémunération de caractère indemnitaire, à un décret, puisque l'article 20 du statut général des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire a droit à une rémunération qui se compose d'un traitement et d'indemnité, donc tout élément de rémunération autre que son traitement perçu par un fonctionnaire est une indemnité. Donc nous attendons ce décret indemnitaire, mais c'est le ministère de la Culture qui en est maître d'œuvre. Comme vous savez que sur d'autres affaires que nous aborderons tout à l'heure, nous cherchons à avoir un rapport de force vis-à-vis du ministère de la Culture qui soit un peu en défaveur du droit d'auteur, il paraît difficile pour le moment au ministère chargé de l'enseignement supérieur d'être très offensif pour obtenir un décret particulièrement favorable pour les auteurs fonctionnaires publics, alors que par ailleurs nous cherchons à diminuer les effets financiers du droit des auteurs qui ne relèvent pas du secteur public. Donc c'est un peu pour cela que nous ne sommes pas très offensifs sur le sujet. Mais doit-il se traduire à la fois soit par l'inertie, la non-rétribution, soit par le recours à de nombreux expédients que vous avez rendu compte, mais qui sont malgré tout très fragiles juridiquement et qui peuvent avoir des effets néfastes, tant pour les responsables qui ordonnent ces rémunérations que même pour les bénéficiaires, qui pourraient se voir réclamer la restitution de rémunérations perçues sur des bases non légales. Alors, quels sont, dans l'attente du décret général sur le droit d'auteur des fonctionnaires, les dispositions qui paraissent envisageables? En premier lieu, il y aura dans le courant de l'année, à la fin de cette année, une modification du décret statutaire, du décret du 6 juin 84, au moins pour les enseignants-chercheurs. Ça ne couvrira pas l'ensemble des fonctionnaires, mais au moins cette partie importante des producteurs de supports numérique des universités. Et un des éléments de réflexion dans la modification des obligations de service d'anciens chercheurs, c'est la diversification des activités qui pourraient être incluses dans le cœur de leurs obligations de service obligatoire. Donc la règle des 192 heures d'enseignement présentiel pourrait être sinon totalement supprimée. Le milieu ne semble pas favorable à une suppression totale de toute référence horaire, mais en tout cas, des systèmes d'équivalence pourraient être autorisés. Et d'ailleurs, la loi du 10 août 2007 prévoit expressément une compétence du conseil d'administration pour aménager les régimes d'obligation de service dans le respect des textes statutaires. Donc effectivement, les textes statutaires qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas les textes statutaires actuels, mais les textes statutaires qui sont appelés à évoluer. Le deuxième instrument, qui est lié également à la loi du 10 août 2007, c'est la possibilité qu'auront, à partir du moment où elles auront acquis les nouvelles compétences, les compétences élargies, donc la nouvelle compétence qu'auront les universités qui auront acquis les nouvelles compétences, d'instituer à l'endroit de l'ensemble de leur personnel des dispositifs d'intéressement, c'est-à-dire des dispositifs indemnitaires définis directement par chaque établissement, par délibération de son conseil d'administration. Et là, c'est une révolution importante, ce que j'évoquais tout à l'heure, un fonctionnaire reçoit des indemnités, les indemnités sont fixées par décret, et donc là, nous avons introduit une brèche importante, puisque désormais, au moins pour une fraction de leur régime indemnitaire, les fonctionnaires affectés des établissements bénéficieront de régimes institués par l'établissement des emplois, et non plus par décret. Au sein de ces mécanismes d'intéressement, la rétribution des activités de e-learning, tant de leur production que des droits d'auteur qui y sont afférents, pourront être inclus. Qu'il y ait ou non activité marchande. On a été très, très clair au moment de l'explication du projet de loi, la notion de dispositif d'intéressement peut inclure l'intéressement à des ressources nouvelles, mais il peut s'agir également d'intéressement à des activités, d'incitation à des activités. Donc là, on a un instrument important, mais qui sera pour le moment, avant 2012, réservé aux seuls établissements qui prendront les compétences élargies. En revanche, dernière possibilité, elle n'est pas expressément écrite nulle part, mais comme on a posé récemment la question à la direction d'affaires juridiques, j'en fais profiter l'ensemble de la communauté, il serait tout à fait possible que pour des activités qui sont gérées par des fondations partenariales, la fondation partenariale soit le rémunérateur direct des activités supplémentaires qui seraient confiées à des enseignants, chercheurs ou à tout fonctionnaire universitaire. Le décret du 2 mai 2007 sur les cumuls d'activités des fonctionnaires a élargi considérablement les possibilités de cumul et notamment est désormais ouvert sans aucune limitation toutes les activités accessoires effectuées au profit d'organismes publics ou privés d'intérêt général, ce qui inclut les différentes formules fondatives. Voilà ce que je voulais dire comme élément de
réflexion. C'était un complément important et évidemment des informations puisées à bonne source. Monsieur Rabineau, le doyen Rabineau, souhaite poser.
Oui, je crois que la dernière partie de l'intervention est très importante parce qu'effectivement, ça change le statut. Parce que je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il faudrait savoir si les UNT sont producteurs ou si ce sont les universités qui sont productrices. Parce que le cadre de la loi LRU convient très bien pour les universités, et ce qui vient d'être souligné est très important. Mais ce n'est pas le cas des UNT. Si. Les UNT ne sont pas des universités.
Elles ne sont pas productrices, ce sont les établissements qui sont producteurs.
Nous sommes d'accord, mais j'insiste là-dessus parce que ce matin, Ce matin, nous étions partis essentiellement dans le cadre du droit d'auteur. On a esquissé ce point très important. Qui est producteur? Si ce sont les universités qui sont productrices, les UNT à ce moment-là ne sont que des portails ou des diffuseurs qui doivent avoir des contrats avec les universités en question. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé. Et pour les droits d'auteur, c'est la même chose. C'est-à-dire que les droits d'auteur, les contrats sont entre les universités productrices et les auteurs, et non pas avec les UNT.
Alors, Michel Moreau-Béliard souhaite...
Oui, et pour compléter les propos du professeur Rabineau, je dirais que il y a également en arrière-plan la question de la propriété des ressources, hein, sachant que effectivement il y a souvent coproduction, mais il n'y a pas toujours coproduction, que à ma connaissance et jusqu'à maintenant, que ce soit dans le cadre des campus numériques ou dans le cadre des UNT, c'est l'argent public qui a financé ces ressources, mais n'empêche que je n'ai pas vu pour l'instant, alors je n'ai pas tout vu, mais je n'ai pas vu nulle part décrit, notamment dans les règlements des UNT, ce que deviendraient ces ressources si l'UNT venait à disparaître.
Elles sont propriétés
des établissements producteurs.
Comment ?
Elles sont propriétés des établissements.
Oui, mais sachant que quand il y a coproduction, il y a plusieurs établissements, sachant aussi qu'il y a aussi une politique nationale qui veut que ça soit mis à disposition des communautés nationales, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faudrait que ça soit un peu plus...
Non, pas signateur des contrats.
Alors, qui souhaite réagir à la tribune?
Non, mais en deux.
Michel Armand, vous réagissez rapidement, hein, qu'on puisse revenir.
Juste sur ces deux points qui ont été évoqués, là, c'est clair et net pour nous. Hein, ni Canège en tant que campus, ni Canège en tant que UNT, ne signe quoi que ce soit comme type de contrat avec les auteurs ou comme contrat de production. Au contraire, ce sont les établissements. On signe deux types de contrats. Un contrat de l'auteur avec un établissement dit... producteur délégué, quand il y a plusieurs, ou producteur tout court s'il est tout seul, et c'est l'établissement donc qui s'approprie par cette façon-là la ressource. Maintenant, attention, on sait qu'on a plus d'enseignants à l'extérieur de nos UNT que dedans, c'est-à-dire les enseignants ont une pratique consistant à développer des ressources et à les mettre sur Internet, et à ne pas avoir signé le contrat avec des établissements. Et là, les choses sont moins claires. Mais pour nous, c'est tout à fait clair.
Patrick Mazuchambon.
Il faut absolument que respecter notre diversité parce que l'université numérique juridique francophone, là, ce n'est pas l'université qui. C'est un statut totalement différent. C'est l'UNJF qui est. Alors l'UNJF, bien évidemment, par délégation, ce sont les universités puisque les seuls adhérents à l'UNJF, ce sont des universités et que le financement est un financement essentiellement. Venant essentiellement des universités. Donc, par le biais d'une délégation, je pense qu'on doit arriver à pouvoir appliquer les 10 textes. Mais vous avez tout à fait raison. Là, ce ne sont pas les universités qui concluent les conventions, c'est l'UNJF en tant que tel.
Oui.
Et qu'il y a donc une ambiguïté incontestable sur cette question.
Très différente. Parce que l'association ne peut pas être propriétaire de...
Jean-Michel Bruguière.
Oui, en fait, moi, je reviens un peu en arrière. Je m'excuse sur observation, parce qu'elle me semble effectivement essentielle. La présentation que je vous ai faite, effectivement, était détachée de la situation des agents publics. Mais par contre, c'est une vraie question. Est-ce que ça présente un caractère indemnitaire ou alimentaire? J'ai le sentiment que la situation que vous avez décrite était effectivement antérieure à la loi du 1er août 2006. C'est vrai que jusqu'à la loi du 1er août 2006, on disait la règle de comptabilité, en fait, la rémunération pour service fait que, en quelque sorte, l'agent public ne pourrait pas recevoir droit d'auteur. On refusait, en quelque sorte, le droit d'auteur en mettant en avant cette règle. Est-ce qu'on n'a pas changé avec la loi du 1er août 2006? On a banalisé les choses, on a dit que le droit d'auteur appartenait à l'agent public. Donc, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. C'est pas parce qu'on est agent public que, forcément, on ne pourrait pas aussi en même temps être auteur. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment toujours un caractère indemnitaire. On peut très bien avoir un agent public auteur, en quelque sorte. Et il est décrit comme ça, me semble-t-il, dans le renversement de perspective de la loi du 1er août 2006. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une vraie question.
Alors, est-ce qu'il y a qui souhaite intervenir? André?
Oui, c'est intéressant. Juste une remarque sur ce point, puis peut-être une autre, je ne veux pas monopoliser la parole, je me suis exprimé longuement ce matin, mais sur la discussion indemnitaire alimentaire, ça me gêne un peu, parce que quand on dit de la rémunération au titre du droit d'auteur, qu'elle a un caractère alimentaire, ça veut dire pour nous juristes que s'y attache un certain nombre de conséquences, par exemple qu'on ne peut pas les saisir, un créancier ne peut pas les saisir. Et c'est tout ce que ça veut dire, pas autre chose. Alors je comprends bien que dans la logique de l'administration, la discussion et d'autres enjeux du point de vue des règles de la comptabilité publique. Mais l'auteur étant un auteur, l'auteur fonctionnaire étant un auteur à part entière, il n'y a rien qui justifie, de mon point de vue, qu'on le traite différemment de l'auteur salarié de droit privé ou de l'auteur tout court, indépendamment de toute relation de travail et de subordination. Et pendant que j'ai le micro, j'en profite pour apporter une précision qui peut-être va rassurer un peu nos amis. Oui, il faut bien normalement distinguer ce qui relève de la rémunération au titre du travail effectué et ce qui relève de la rémunération en tant que contrepartie de la cession. Ça n'est pas la même cause. Et il y a des conséquences qui sont attirées de ça, notamment celles qu'a rappelé Jean-Michel Bruguière. Il est hors de question de dire que la simple rémunération du travail fait implique automatiquement cession des droits. Sous cet angle-là, la différence mérite d'être faite. En revanche, je ne vois pas ce qui empêche les parties, dès lors qu'elles spécifient bien qu'il y a une rémunération au titre du droit d'auteur, de calculer cette rémunération en y ajoutant, ce serait peut-être mieux de le dire, mais même si ça n'est pas dit, je ne vois pas que ça puisse déclencher des sanctions ou entraîner des nullités quelconques. Donc, je pense qu'il est bon, il est toujours meilleur d'identifier de manière distincte. Bon, une fois qu'on l'a fait, moi j'ai pas de problème, je pense que ça passe du point de vue du droit d'auteur.
Qui souhaite intervenir? Serge Bory, et puis Madame Gallon.
Merci Yann. Au risque de mettre la pagaille, je voudrais poser une question. Aujourd'hui, quand un auteur écrit un bouquin, il s'adresse à un éditeur, il en existe, nous en connaissons, et il passe un contrat d'auteur avec cet éditeur, ce qu'on appelle un contrat d'édition. L'université numérique thématique qu'on nous présente ici, n'est-elle pas en train, ou ne sont-elles pas en train, ces universités, de se substituer finalement aux maisons d'édition? Moi, je vous pose une question fondamentale. Est-ce que, on est dans le numérique, certes, mais finalement, c'est de l'édition numérique. C'est une conception numérique. Alors, c'est vrai que nos éditeurs, aujourd'hui, n'ont pas cette culture-là, mais ils vont l'acquérir, cette culture-là. Ils l'auront. Alors, on est en train de débattre sur le droit d'auteur, parce que finalement, ça ne cadre pas. Nous sommes des fonctionnaires, on est payés comme des fonctionnaires, et puis tout d'un coup, on voudrait nous payer comme des auteurs dans le cadre de l'université. C'est pour ça que vous êtes mal à l'aise, madame, et que je comprends, aux entournures, on est quelque peu gêné. Donc, c'est une question qui est fondamentale. Est-ce que finalement, est-ce la vocation des universités aujourd'hui de faire de l'édition numérique?
Moi, je veux bien répondre. Je veux bien répondre parce que, en fait, le principe qui a vocation à gouverner cette question est effectivement essentiel. C'est un principe que les publicistes, je dirais, mettent en avant depuis très longtemps, qui est le principe de non-concurrence. Le principe de non-concurrence qui veut que, normalement, s'il y a effectivement quelqu'un sur le marché, eh bien, on se dispense finalement de se lancer dans cette activité. Sauf que ce principe de non-concurrence que les publicistes mettent en avant depuis très longtemps, c'est un principe qui est mort depuis 1986. Depuis 1986, on a adopté une ordonnance, qui est l'ordonnance de 1986, qui pose un principe qui est celui de l'égale concurrence, qui est de dire en quelque sorte, vous pouvez agir comme n'importe quel opérateur, mais si vous agissez, à ce moment-là, vous devez respecter les mêmes règles, c'est-à-dire ne pas commettre d'entente, pas d'abus de position dominante. Donc sur le principe, il me semble que oui, on peut tout à fait agir et se lancer dans cette activité, pour autant, effectivement, de ne pas commettre d'abus de position et d'entente. Mais je crois que vraiment ce principe de non-concurrence, on aura fait un grand progrès lorsqu'on sera débarrassé d'espèces de mythes qui nous en...
Précision utile, Madame Gallon a demandé la parole.
Ah, pardon.
Allez-y, madame. Ah.
Je ne suis pas juriste, donc je vais poser mes questions dans mon français à moi, et j'ai du mal à comprendre. Et je ne sais pas s'il faut poser la question aujourd'hui ou demain, mais comme j'ai envie de la réponse, d'avoir la réponse, je préfère la poser aujourd'hui.
Mieux retenir que courir.
Exactement. Monsieur Devant a parlé de trois ouvertures qui me paraissaient particulièrement intéressantes. C'est les 180 heures équivalents en présentiel avec lesquelles on souffre beaucoup. Je suis très contente qu'il y ait enfin une ouverture de ce côté-là. Et puis quand j'entends ce que vous dites à propos de la fondation, est-ce que la solution idéale, ce serait pas que les UNT se transforment en fondation? Est-ce qu'il serait une solution supplémentaire ou complémentaire pour pouvoir indemniser les enseignants? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça peut se passer et comment ça peut gérer à la fois en reconnaissance du travail et en droit d'auteur? Est-ce que ça va aller directement aux enseignants ou est-ce que ça va quand même transiter par les établissements? Je ne sais pas si ma question est claire.
Pour l'autre question sur les fondations, bah, évidemment, elle est à l'ordre du jour demain. Donc, oui, si vous voulez bien, on va l'aborder de plein fouet demain, puisqu'elle est au programme. Hein. Alors, reste la première partie de la question. Monsieur Bonnotal, vous souhaitez apporter un élément de réponse à madame?
Monsieur Capul, pardon.
Monsieur Capul, bon.
Oui, je voudrais juste faire un petit parallèle avec ce que le ministère fait pour le niveau de l'enseignement scolaire. On est effectivement sur deux modèles différents. Dans l'enseignement scolaire, nous avons une autre stratégie qui consiste à soutenir les productions numériques des éditeurs, c'est-à-dire que nous faisons des appels à projets sur des thématiques dont les enseignants de collège et lycée ont besoin, et nous demandons aux éditeurs de nous proposer des projets que nous soutenons à moitié de du coût de ce projet. Les produits numériques ainsi réalisés étant ensuite vendus, quand même, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un marché public et d'une commande publique, les produits soutenus étant vendus par les éditeurs privés aux établissements scolaires. Il n'en reste pas moins que le marché de l'édition numérique ne s'est pas développé dans l'enseignement secondaire. Il n'y a qu'un seul acheteur, c'est l'État, ce sont les établissements. Et malgré ces investissements importants, les éditeurs sont toujours à regretter que le marché de l'offre numérique ne se soit pas développé. Dans son enseignement supérieur, je dirais que la situation était déjà là de production de contenu par les campus numériques et que le ministère a fait le choix de continuer dans cette voie et de soutenir une production numérique qui, de toute façon, allait se développer plutôt que de soutenir des éditeurs qui ne demandaient pas forcément à avoir une aide de l'État et qui faisaient très très bien leurs affaires dans leur coin sur les matières juridiques, scientifiques, médecine, etc. Voilà, il y a deux stratégies un petit peu différentes du ministère. Je ne sais pas quelle est la meilleure? En tout cas, je constate que dans le supérieur, il y a une vraie production de ressources numériques et que pour le secondaire, alors que le public, normalement, est beaucoup plus important, il n'y a pas eu vraiment de décollage du marché des ressources numériques pédagogiques. Voilà. Mais je ne vais pas plus loin. C'est juste un constat.
Merci. Monsieur Bonnotal souhaite ajouter quelque chose et après, on va arriver très vite à la conclusion.
Vous avez tout à fait raison, excusez-moi, pour répondre. Il y a même eu des expériences importantes avec, dans le domaine du droit, si ça s'appelle U3K, qui a été un échec total et je crois qu'il a été un gouffre financier important. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 33 millions d'euros qui avaient été investis et cette université n'a jamais vu le jour, alors même qu'une production a commencé, certains enseignants ont été payés, l'expérience a été interrompue et je crois qu'il est bon que le ministère ait incité les universités à prendre le relais de l'entreprise privée, car l'entreprise privée ne viendra sur les enseignements numérisés que lorsqu'ils auront la certitude de la rentabilité. Jusque-là, il faut que les choses soient dites. Ils laisseront les universités mener les expériences en la matière. Avec inquiétude.
C'est pas la production qui est
rentable. Monsieur Bonnotal.
Oui, juste deux mots. Donc pour compléter mon échange avec Monsieur Bruguière, donc effectivement, nous sommes bien d'accord. Il y a une grande révolution datant du 1er août 2006. C'est la reconnaissance du droit de l'honneur du fonctionnaire, avec un aménagement particulier pour les universitaires. Mais il n'en demeure pas moins que, s'agissant du mode de rémunération du droit d'auteur lorsqu'il transite par la collectivité publique, elle suppose la prise d'un décret. Donc c'est ça l'enchaînement de la hiérarchie des normes, tout simplement. Hein. Sur l'autre question, effectivement, je cite les fondations partenariales, parce qu'effectivement, si une fondation partenariale intervient en tant qu'intermédiaire dans un processus de rémunération, effectivement, en tant que personne morale de droit privé, elle est en revanche soumise de manière pure et parfaite au modèle qu'a décrit M. Bruyère. Ça, c'est absolument sûr. Ouais,
tout à fait. Un mot de conclusion, on a deux minutes pour M. Bruyère.
Non, pas de mot de conclusion.
Un mot de conclusion.
Non,
pas de mot de conclusion. Eh bien, on va mettre.